Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, magnifique émission. Je vous l'annonce aujourd'hui, on va se régaler. On va se régaler, on va lancer le quart de finale de l'équipe de France qui débutera bien sûr vendredi à 21h. On y sera en Allemagne. Mais avant, on va faire une magnifique émission avec un plateau de rêve. Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça va Jean-Louis ?
On est content de te retrouver. Hein.
Ah bah,
on s'est inquiété, dis donc.
Au top, toujours au top avec Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis, bonsoir à tous, ravi d'être là les copains.
Bon, salut Dugarry.
Écoute, nous aussi, on est ravis que tu sois là et on est ravis d'accueillir Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Jérôme, salut Jean-Louis, salut Dugarry. Salut, Dugarry. Ah, salut les copains.
Ça fait longtemps que tu n'as pas participé à la mission.
Ah ben Eric, écoute, moi j'y ai participé lundi soir entre 17h et 21h. Pas d'accord que toi, je sais pas ce que tu faisais.
J'étais au plus mal.
Oui,
oui. Hier aussi, les deux derniers jours, Eric était là de 18h à 20h.
On t'a vu. Oui, parce que pas d'accord que toi, tu te fais bronzer en disant que tu es malade, nous on travaille.
Ouais, écoute, voilà. Tu sais, avec le temps qu'il fait à Paris, on se fait pas bronzer, hein, t'en fais pas.
Hein. C'est sûr. Alors ce soir, attention, Rotten sans flamme. À deux jours de France-Portugal, le quart de finale à l'Euro. Toutes les infos sur ce match dans une seconde. Et attention, un gros faites entrer l'accusé tout à l'heure. Ceux qui n'osent plus critiquer le jeu des Bleus seront sur le banc des accusés. Dont toi, Eric. Prépare-toi.
Eric, merde, celui qui dit ça, il m'a pas écouté alors. Mais c'est. Allez.
Celui qui dit ça n'a peur de rien. Ce sera tout à l'heure à 18h30. À 19h, l'OM peut-il de nouveau avoir de l'ambition avec deux Herbi aux commandes? On vous donnera les infos Mercato avec Florent Germain et vous pourrez réagir au 32-16. Et puis l'expérience RMC continue. Hier, on a envoyé des supporters de l'équipe de France au quart de finale face au Portugal. Là, on a des places pour la demi-finale. On espère que ce sera l'équipe de France qui sera dans cette demi-finale. Mais quoi qu'il arrive, on vous offre le voyage à Munich, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes et les deux places pour donc la demi-finale du 9 juillet. C'est toujours le même signal d'alarme, on peut dire. Le cocorico, dès qu'il tombe, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Tout de suite, sur ce championnat d'Europe, les Portugais se sont fait un nouvel ami.
Ton ami, c'est moi.
Que c'est dur pour les Portugais. Ils vont faire beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus. Léao, c'est insuffisant ce qu'il propose.
Tu sais, je suis ton ami.
Il n'y a aucun Portugais qui est sur les seconds ballons. C'est quand même pas normal.
Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi.
Ah, la grosse déception, bien évidemment, vient des Portugais qui n'auront pas montré grand-chose.
Paris, c'est la ville qui compte plus de 400 000 Portugais. Et la troisième ville portugaise.
Rappelle-toi ce que ton mieux pote disait.
Il crée une équipe. Ça veut dire c'est comme un puzzle. Il faut que les pièces y font clic.
C'est quoi la tradition du Portugal? C'est simple. C'est le pastéis. C'est la pâtisserie portugaise par excellence. C'est un tartuflan.
C'est un trésor national. Un uniforme. Allez, c'est comme ton pêche.
Il y a peut-être plus malin que moi ailleurs.
Le Portugal doit-il nous faire peur? 32-16, appelez-nous pour en débattre. On va lancer donc le quart de finale de vendredi, 21h à Hambourg. Et on va parler de cette sélection avec Nicolas Villas qui nous rejoint. Salut Nico.
Et oui, on est là, on est bien.
Salut Nico.
Salut les gars, ça va? Vous voulez que je me barre en fait là avec des prods pareils? C'est Torres qui l'a fait tout,
justement, c'est
du gars.
Alors est-ce que c'est vraiment une tarte au flan, le pastéis de Nico?
C'est pas un flan quoi. C'est le flan.
C'est le flan.
C'est pas ton flan tout pourri là, visqueux là, que tu t'as plongé à la
pointe. C'est du marketing ça maintenant.
Non, c'est beau, c'est beau.
Quel marketing, ça fait pas du marketing. Monsieur, depuis qu'il court, il a maigri.
C'est bon, il n'y a pas au Portugal, il n'y a pas la tête de Christophe Dugarry mise à prix.
Non, il y a plus, il y a celle d'un autre Cristiano, mais en ce moment. Peut-être pas mise à prix, mais bon. Voilà, attendez.
Mais pas loin.
Non, franchement, ils feront jamais aussi bien que Jérôme en 2016.
Ah bon?
Ah non, mais c'était incroyable. C'est-à-dire que...
Pourquoi? Qu'est-ce que t'avais dit en 2016?
Bah, que c'était dégueulasse. Jérôme et Daniel, très très puissant, genre JT et tout, hein, c'était total. Quoi.
Très très dur.
Ouais.
En même temps, bon. Après, ma parole, elle pèse, hein.
Oui, Donc ça s'est vu. Hein.
Ouais. Bah bien sûr, bien sûr. Nico, voilà, quelle impression te laisse cette sélection du Portugal pour l'instant?
On va pas se mentir, c'est pas fou. Après, j'ai écouté Christophe sur les commentaires. Mais comment tu veux ne pas réagir sur un match comme ça de cette façon? C'est-à-dire, tu joues la Slovénie en huitième, t'es archi favori, t'as un banc de dingue, t'as un entraîneur, un sélectionneur qui fait des remplacements le premier à l'heure de jeu et il enlève le meilleur joueur qui est sur le terrain. Il s'est fait, sincèrement, sur les dernières années, même à la fin de Fernando Santos avec le Portugal. J'ai pas vu un sélectionneur se faire déglinguer aussi vite par la presse que là au Portugal. Il y a toujours une forme de bienveillance. On va laisser le temps, etc. Et là, Roberto Martinez se fait hyper critiqué dans les éditos, à la télé, etc.
T'as mené d'enquête. Est-ce qu'il n'est pas de la même famille que Didier Deschamps?
Alors, il y a une grosse différence.
T'as regardé, vérifié l'arbre généalogique.
Il y a une grosse différence entre les deux quand même. Ah. C'est le palmarès. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un, il a flingué la génération du foot belge sans rien gagner. Ouais. Il y en a un autre qui a fait quelques finales.
Il est en train de flinguer la génération portugaise.
Je dirais pas encore parce qu'on va voir jusqu'où ça va aller. Attends, nous en 2016, beaucoup critiqué le jeu du Portugal. Ils sont quand même allés au bout et ils ont gagné. D'ailleurs, je regardais
ça. Santos, le cousin de Dédé.
Bah, c'est plutôt ça. Mais même comme ça, Santos, il avait fait deux trucs avant où ça jouait un peu plus. Il était plus expérimenté.
Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu un si gros effectif aussi.
Alors, y a pas
entre
que
les
ça,
mains, il a quand même un matériel énorme.
Alors, il y a le fait qu'effectivement, il a le choix. Et comme dit l'autre, le plus dur, c'est d'avoir le choix. Et que le problème, c'est que les choix, lui, les prend tard, très tard, peut-être trop tard. C'est passé de justesse le premier match de la phase de poule contre la République tchèque où il fait un remplacement à la 85e, alors qu'il voit qu'il y a des mecs qui tirent la langue. Et les deux joueurs rentrent
les
en
deux, ils sont décisifs.
Et qu'on sait ça, ils sont décisifs et ça se joue à la.
Avec de la réussite, mais bon.
Et là, le match contre la Slovénie, c'est premier remplacement, heure de jeu, t'enlèves ton meilleur joueur qui est Vitinha, tu laisses Ronaldo, 39 ans, les 120 minutes. Pep, 41 ans. Moi, je me souviens, j'avais fait un tweet pendant le match. C'était sur quelle planète, en 8e de finale d'un Euro, t'as un joueur de 39 ans, il y a un autre de 41 qui joue 120 minutes.
Ouais, bon, Pep, ça m'a moins choqué. Si
avec
tu veux,
Morta, il était cramé la dernière demi-heure. Cramé, oui, il a 41 ans, Jérôme.
Oui, oui. Non, mais attention, non, après, à 40 ans, il est encore bon. Donc
mais pas 120 minutes.
Bah, ça, c'est toi qui le dis.
Les deux contres qui mangent en fin de match, c'est lui qui se prend l'accélération.
Oui, mais
c'est pas lui tomber dessus, c'est juste dire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'on lui reproche à Martinez, c'est les choix initiaux, après tout, pourquoi pas. Mais les sélectionneurs, ça fait des mois qu'ils chialent pour avoir des listes élargies à l'Euro.
Ouais,
ça fait des mois qu'ils chialent pour garder les cinq remplacements en cours de match. Et Martinez, le premier. Et résultat, t'arrives à une phase finale d'un Euro qui est en fin d'une saison qui est ultra longue. Et les mecs te font trois remplacements dans le match. Et le premier à la 80.
Oui, mais parce qu'ils sont pas après, il faut aussi reconnaître, tu as ton avis, et moi aussi, peut-être qu'en effet, à la place de Martinez, je ferai des changements bien plus tôt parce que la sélection donne pas satisfaction. Mais il y a aussi des entraîneurs, et moi j'ai jamais été sur un banc de touche comme ça, qui sont pas adeptes de changement. Tu vois, tu peux changer.
Mais lui, c'est pas ce qu'il dit en l'occurrence.
Non, bah,
le problème, le problème de Martinez, c'est pas ce qu'il dit.
Oui, mais c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait.
Oui, mais justement, le problème, c'est entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
Voilà,
c'est ce qu'on lui reproche.
Après, est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce que la communication aussi énerve pas? Parce que s'il a à contre-courant, en effet, et que c'est très contradictoire entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, eh ben forcément, la presse et les passionnés du foot portugais vont lui tomber dessus. Parce que tout le monde est énervé. C'est un peu ce qui arrive à Didier Deschamps. Hein.
Mais c'est un peu ce qui lui arrive en Belgique,
en Belgique, un peu à Didier Deschamps, parce que Didier, même s'il a beaucoup gagné avant, n'empêche que, on va en reparler tout à l'heure. Mais
fais attention à ce que tu dis, Eric va se vexer. Arrête Deschamps, attends la finale. Attends.
Non, mais c'est sûr.
Attends, on en parle tout à l'heure. Tu vas passer pour un con. Alors toi, t'as l'habitude, mais c'est pas grave.
Ouais, mais c'est pas grave.
Est-ce que ce Portugal te fait peur? Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que nous racontons tout à l'heure.
Il est obligé de faire peur, mais un peu comme les Belges, je vais te dire. Alors après, on s'était chopé avec. C'était qui avant le match?
Duga, il disait la Belgique, on va leur mettre 3-0.
Il y avait Duga,
comme dira Eric, on verra, on fera les comptes.
Non, mais parce que c'est vrai. Ah non, c'était Manu Petit aussi qui disait, on va leur rouler dessus.
Aussi, oui, c'est vrai.
Et moi, je disais attention, parce que en effet, dans cette équipe belge, alors pas à tous les postes, mais il y a quand même des joueurs de talent qui jouent dans les meilleurs clubs européens, qui sont peut-être, en effet, comme le dit Nico, après une saison, il n'y a pas qu'au Portugal, il n'y a pas qu'en France, beaucoup de grosses nations, si tu veux, souffrent de ça. Les joueurs sont un peu cramés. Mais n'empêche que quand tu vois les noms sur le papier, attention, Léao, c'est quand même.
Non, mais cherche pas à tous les postes. C'est-à-dire qu'à tous les postes.
Sur les noms, c'est impressionnant.
Non, mais après, tous les postes sont doublés cette année. Il y a peut-être, allez, le poste d'avant-centre, où Ramos a pas fait une saison mirobolante, mais il a été blessé, il a eu des problèmes de santé, on sait ce qui lui est arrivé, où il a fait des rentrées où il a peut-être été un peu moins performant, où de toute façon il y a une obstination. Voilà, ce que j'allais dire, il y a une obstination de la part de Roberto Martinez à laisser jouer Ronaldo quasiment l'intégralité des minutes.
Mais ça, même ça, Nico, je suis désolé. Là, quand Jean-Louis dit, est-ce qu'on
vous
peut...
avez pas marre de trouver des excuses pour les uns et les autres?
On doit avoir peur.
Sincèrement, j'ai l'impression que c'est systématique les excuses.
Quelles
c'est toujours
excuses?
Ah mais lui il est fatigué. Non mais lui il est fatigué. Mbappé il a son masque. Et lui il a trop joué. Et lui il a 41 ans. Et lui ci. Et lui ça. Non mais les gars.
Quoi, tout le monde se trouve des excuses aujourd'hui.
Mais alors... tout le temps, tout le monde.
Mais qui trouve des explications du gars? Tu peux
mais
pas.
Mais non, c'est pas des explications. Si. Mais il a aucune explication à donner, Martinez. Quand t'as l'effectif, quand t'as le matériel qu'il a et la bouillie de football qu'il est en train de nous proposer.
Ah bah donc, justement, il a des. Mais lui, c'est pas lui qui explique ça. C'est nous. On essaie d'expliquer ce qu'il en est. Mais lui, le problème, justement, il est là. C'est que Martinez, il explique rien, justement, du gars. Il est là, le problème. Lui, il explique rien.
Il a raison. Chez lui, j'expliquerai rien du tout. Je me cacherai. Ouais. Et attends d'avoir un bon résultat et attends de gagner. Ne viens pas en conférence
Nico,
de presse.
Nico, moi je voudrais juste te poser une question. Tout le monde s'énerve là sur le début de l'Euro, sur les matchs du Portugal et sur la gestion de Martinez. Mais depuis qu'il est arrivé, rassure-moi, ils ont fini premier invaincu de leur groupe.
Oui, mais c'est
comment,
génial.
Du gars, arrête de souffler.
Mais c'est un trophée, ça.
Mais arrête de souffler.
Qu'est-ce que tu racontes? C'est la meilleure génération de tous les temps.
Tu sais même pas ce que je vais poser comme question
si,
à Nico.
Je sais ce que tu vas me dire. Ah bon, ils étaient bons avant, ils étaient ci, ils étaient
mais
ça.
Mais pas du tout. J'ai pas vu tous les matchs du Portugal. Donc arrête de me tomber dessus. Je pose une question à Nico. Nico, est-ce que.
Gars, c'est moi là.
Est-ce que quand ils gagnaient les matchs pour se qualifier à l'Euro, ils étaient aussi vilains qu'ils le sont depuis le début de l'Euro?
Non, bien sûr que non. Ils ont fait un parcours historique parce qu'ils ont fait 10 victoires en 10 matchs, ce que d'ailleurs Martinez avait déjà fait en qualif pour le dernier Euro avec la Belgique aussi. Et c'est un peu d'ailleurs, il avait cette espèce d'étiquette du champion du monde des qualifs, mais là, c'est là où je rejoins du gars, c'est pas un trophée en soi. Mais
comment ils jouaient? Ils jouaient bien.
Je vais même pousser plus loin que toi cette réflexion. On a des débats très souvent, nous qui suivons assidûment ces matchs de l'Euro, sur le niveau global des performances. Mais le constat que tu fais, il vaut pour quasiment toutes les sélections. Alors peut-être, et là je reviens à ce que je te disais du gars tout à l'heure, c'est pas Martinez qui le dit, c'est moi. On est en fin de saison. Est-ce que les mecs sont cramés? Ils ont jamais autant joué. C'est pas une excuse.
Ouais, tu veux le faire exploser.
C'est un élément explicatif, qu'on le veuille ou pas. Excusez-moi, on est en fin de saison. Le niveau de jeu de l'Euro, on a le droit de se poser des questions quand il y a aucune sélection qui présente le niveau qui avait été le sien lors des phases de qualif, où il y a des joueurs où il y a aucune star, aucun leader technique d'une équipe qui aujourd'hui tient son rang. Il y en a pas.
Mais tu as raison. Mais qui s'en plaint de ça? Personne.
Bah si, nous qui regardons les matchs quand même du gars.
Mais justement, qui aujourd'hui va la ramener? Est-ce qu'il y a un papier qui est sorti qui nous explique que cet euro, il est à chier, qu'on s'ennuie? C'est-à-dire qu'une phase finale, c'est censé voir les meilleurs joueurs européens qui nous régale toute la saison s'affronter.
Voilà.
Et là, tu te dis, quels sont les meilleurs? Quel est le meilleur joueur européen? On va se régaler. Je vais me poser devant ma télé, je vais kiffer comme jamais. Là, c'est une purge. C'est un ennui mortel.
Et mais comment tu l'expliques alors?
Quand je vois le président de l'UEFA, qui est slovène, que je le vois en pleurs après la qualification des Slovènes. Voilà le plaisir. Le plaisir, il est là. Le mec, il s'est fait un kiff en rajoutant des matchs, tous les ans, on rajoute des matchs, des compétitions.
Je suis pas sûr qu'il l'ait fait pour la Slovénie.
Mais il a fait pour la Slovénie.
Tu viens de répondre à la question.
À quelle question? À celle qu'il a posée?
Sur ces compétitions de fin de saison et ces compétitions internationales. On a commencé à en parler hier, Jean-Louis, oui. et je suis content que Duga et Jérôme soient là avec Nico, pour justement, puisque le débat prend cette direction-là. Le constat quand même qu'on peut faire régulièrement sur ces compétitions finales, c'est que le niveau de jeu est inférieur à ce qu'on voit dans le football de club, notamment parce que nous tous les fans de foot, on est privilégiés, on a une Ligue des Champions qui est, moi je trouve, de très haut niveau avec des matchs
ce qui n'est pas forcément le cas cette année.
Ah, tu rigoles quoi, le City Real à l'aller,
le retour.
Mais il y a toujours d'abord il y a de l'intensité, le football de club.
Parce qu'il n'y a pas toujours été
le compare avec les matchs qu'on va avoir maintenant.
Non, mais le football de club, et c'est peut-être aussi une réponse à la question que Nico posait. Les mecs, ils sont ensemble toute l'année avec une préparation physique, une préparation tactique, beaucoup de vidéos sûrement. Enfin, ce qu'on faisait nous, quoi. Peut-être même encore plus parce que maintenant il y a les caméramans qui filment tout, même les entraînements. Donc, et un football de nation où les mecs. Cette année, je crois qu'ils ont eu quoi, 3 semaines de préparation. Au bout d'un championnat où ils ont joué ces 4 matchs ou ces 4-7 pour la plupart, et avec des mecs qui arrivent la plupart du temps bruits, voire blessés.
Sur les dernières années, ça a toujours.
Mais c'est ce que je te dis. C'est peut-être. Et donc, par rapport à ce que disait Dugas, Seferine avec. Est-ce que finalement? Quand tu regardes une compétition de fin de saison de nation, ton plaisir, tu le prends pas juste dans la qualification et dans la joie et la communion qui peut y avoir dans le pays. Je note parce que tu viens de nous dire que même le président de l'UEFA était content. Oui,
Moi, je note un truc, vous êtes tous arrivés avec vos questions, avec vos réponses, mais personne n'a répondu à la mienne de question. Est-ce que le Portugal doit nous faire peur?
Question en même temps.
Dugas, qu'est-ce que tu en penses?
Les bonnes questions.
Bah oui, puisqu'elle est pourrie, ta question.
Moi, je peux te dire.
Non, le seul au niveau, c'est Dugas.
Oui, oui.
Je trouve que c'est une équipe qui a, comme nous, du mal à créer du jeu. Ça, c'est clair. Et à conclure le peu d'occasions qui se créent. Ça, c'est une évidence. C'est une équipe qui, comme nous, joue sur un rythme très bas, avec très peu d'intensité. Voilà, moi, ça, c'est ce que j'ai constaté sur leur match. Je trouve que c'est une équipe qui, comme nous, n'a pas son jeu collectif au niveau de ses talents individuels. Voilà, je trouve que c'est à peu près la même chose. Par contre, je trouve que c'est une équipe qui est moins forte que nous défensivement. Moi, j'ai une vraie interrogation avec Pépé, même si je ne veux pas lui tomber dessus, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, on ne tombe pas sur un mec de 41 ans qui a fait la carrière qu'il fait, mais je trouve quand même que c'est compliqué, voilà, et ça va devenir de plus en plus compliqué.
Il y a la même phrase avec Ronaldo d'ailleurs.
J'ai un souci avec Cancelo aussi, qui est un très bon relanceur, très bon contre-attaquant, mais je trouve que défensivement, il y a des problèmes. Et je trouve que c'est une équipe qui a un gros défaut, c'est que c'est une équipe qui est vite, très vite coupée en deux, avec deux joueurs qui ne défendent absolument pas, c'est Ronaldo et Leao, et qui en a absolument rien à faire. Je trouve que c'est une équipe qui manque d'équilibre. Alors oui, je vais te dire qu'il faut se méfier du Portugal, parce qu'elle a des joueurs hors normes, elle a des joueurs hors catégorie. Par contre, je pense que collectivement et défensivement, même si nous, on n'est pas des lumières, je l'ai dit et redit, je pense qu'on est au-dessus d'eux. Mais sur un match, ça reste un match qui, à mon avis, est proche du 50-50, voire du 60-40 pour la France, parce qu'on a une défense un peu plus solide.
Je pense qu'au milieu de terrain, ils sont techniquement plus forts que nous. Ça, il n'y a pas de problème. C'est des joueurs de ballon. Le problème, il est d'un point de vue physique, en effet, athlétique, parce que Didier Deschamps va axer ça sur le milieu de terrain, comme on en a l'habitude. C'est pour ça qu'il renforce avec des joueurs qui sont moins des créateurs, mais plus des athlètes.
Mais il faut se préparer à avoir Fofana à la place de Rabiot.
Exactement. En gros.
Même les Portugais, Jérôme, même les Portugais, ils ne vont pas jouer de la même façon qu'ils ont joué le.
Non, mais ce que je veux dire,
ils vont changer l'organisation, ils vont changer leur milieu de terrain.
C'est vrai.
Parce que leur milieu de terrain, même avec Paulinha, il joue pas sentinelle, ce garçon. Il va un peu partout. Ça joue un peu n'importe comment. C'est technique.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as Fernandez.
Il a changé d'organisation. Il va trouver quelque chose, l'entraîneur.
Non, mais quand
il va pas jouer comme il a joué.
Non, mais c'est vrai. Je suis peut-être d'accord avec toi. Après, il faut s'attendre quand même. Et c'est pour ça qu'on a le droit de dire que, attention au Portugal, parce que ces joueurs-là, s'ils trouvent la bonne recette avec le ballon, ils vont faire plus mal que nos milieux de terrain français, c'est-à-dire que Fernandez, Vitinha, Silva, ouais, Bernardo Silva.
Va falloir qu'ils accélèrent un petit peu.
Oui, c'est vrai. Non, mais je te reconnais que sur le rythme, c'est un peu comme les Belges. Ce que je veux dire, c'est que les Belges, ce qu'ils nous ont proposé, c'est tellement minimaliste.
Comme les Français, comme les Français.
Aussi. Eux, c'était encore pire, c'est qu'ils ont dit. Nous, on veut pas du ballon, on le laisse aux Français et on recule des joueurs comme De Bruyne et c'est pour ça que ces mecs-là ont fait un match catastrophique, tu vois. Et le Portugal, je pense qu'ils peuvent pas le faire. S'ils font ça, ils sont morts. Donc ils peuvent pas le faire. Il faut qu'ils trouvent une autre alternative tactiquement pour que ces joueurs-là aient leur rayonnement habituel. Et si c'est le cas, attention. Parce que là, je pense qu'ils peuvent nous mettre de gros soucis.
On va voir ce qu'en pense Jean-Baptiste qui nous rejoint au 32-16 sur RMC dans Rotten sans flamme.
Je suis pas de retour.
Ah bah là, pourtant, je parle. Dommage que t'es pas de retour, Jean-Baptiste.
Ça va, Jean-Baptiste?
Là, j'ai rien du tout.
Ah, toujours pas. Bon. Ah, il y a un problème de retour, là, visiblement.
T'es où, Jean-Baptiste ?
Pas de retour, Max.
Non, mais il t'entend pas. Il parle à Max, là, au standard.
Non, c'est toujours pas Max.
Toujours pas de retour.
Alors, on va le couper parce qu'il sait pas qu'il a l'antenne et ça
Jean-Baptiste,
peut
peut-être. À un moment donné, il peut glisser.
Voilà.
Là, il va s'en prendre à Max et puis Max.
Juste pour rebondir sur ce que disait Jérôme.
On va retrouver après Jean-Baptiste.
C'est vrai qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont attendus, qui sont des cadres techniques de cette équipe. Je pense à Bernardo Silva. Alors, il y a énormément d'attentes autour de lui parce que c'est un joueur qui est merveilleux. Mmh. Et c'est vraiment l'un des joueurs où, ces derniers mois, ces dernières années, même quand le Portugal a été bon, on n'a pas réussi à retrouver le Bernardo aussi performant en club qu'on a en sélection. Mmh. Bruno Fernandes, qui a rayonné pendant les qualifs. Il a beaucoup de mal à s'affirmer. Pareil, alors tiens, l'autre jour on balançait la stat pendant le live, mais c'est le joueur au monde qui a disputé le plus de minutes sur la saison. Mais au monde. Hein. Donc, et je pense que là, et c'est pas une excuse encore une fois du gars, c'est une explication. Je pense que c'est un mec aussi. Il y a un moment, il faut dire ce qu'il y a. Il a peut-être besoin de souffler un petit peu. Et puis, pour moi, le seul qui véritablement est au rendez-vous et a été hyper régulier, c'est Vitinha. Et d'ailleurs, au Portugal,
ouais, c'est vrai, il est
de le voir sortir.
C'est une révélation
sortir.
Parce qu'il n'était pas titulaire.
Mais absolument,
complètement,
mais complètement. Et d'ailleurs,
excusez-moi, Vitinha, il commence à m'agacer, à toucher 10 fois, 20 fois.
Il a toujours joué comme ça, du gars.
À 4 mètres. Ouais, non, mais là, d'accord, mais là, il faut. Il a le droit d'évoluer. Il est jeune. Il a le droit de jouer à une touche de balle, à deux touches de balle, de jouer vers l'avant. Là, je trouve qu'il tripote un peu trop le ballon. Ouais. C'est-à-dire que ça va déjà pas très vite. Et je trouve que lui, qui est. Je suis d'accord avec toi, au-dessus des autres en ce moment techniquement et qu'il a l'air d'avoir des jambes, c'est pas parce que t'as des jambes qu'il faut courir pendant 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres avec le ballon pour la donner à 4 mètres à côté. Au bout d'un moment, c'est justement des joueurs qui ont un peu plus de jambes. Ah ben non, mais moi c'est genre, ben oui, je suis dur. Excuse-moi, je recommande les matchs. Moi, je trouve que Vitinha, justement, il doit aussi faire évoluer son jeu et amener quelque chose de plus à sa sélection. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs. Tu trouves pas qu'il court avec le ballon
Si, mais moi je trouve que c'est son style et surtout moi là où je trouve que. Mais moi, je vais même te dire là où je suis pas d'accord avec toi sur l'analyse que t'en fais, c'est que pour moi aujourd'hui, pour un mec qui a un an était pas titulaire dans cette sélection, ouais. Il est déjà dans le dépassement de fonction. Le rôle qu'il occupe lui, c'est celui que Bernardo Silva a eu un temps quand il était rebasculé au milieu de terrain un peu comme Griezmann quand. Il est amené à dézoner ou que Bruno Fernandes avait également. Voilà, c'est un joueur qui a un an n'était pas titulaire dans cette équipe. Et si on en est à se dire que dans le cœur du jeu, qui est quand même le poumon d'une équipe, c'est le joueur qui a le plus de responsabilité. Enfin, moi, pour moi, c'est qu'il.
Est-ce que tu l'as vu sur un jeu long, sur un ballon, donner un ballon intéressant sur un jeu long? Est-ce que tu l'as vu donner un ballon
absolument,
vers l'avant? Est-ce que tu l'as vu faire des trucs comme ça?
Et moi, non seulement je l'ai vu faire, et là où je trouve que moi, et j'en reviens à ce que tu disais,
à quelle minute
notamment, d'ailleurs, le match contre la Slovénie, ça a été le cas. Et je vais même te dire, mais c'est pas là où il a été meilleur. On est d'accord, c'est pas là où lui a été. A été le meilleur. Et justement, c'était un peu à l'image de l'équipe. Mais moi, où je trouve qu'il y a une association qui est intéressante, et je rejoins ce que tu disais par rapport à Palinha. Palinha, on s'attendait à ce qu'il joue comme vrai 6, limite joueur qui dézone en phase de possession et qui se mette entre les défenseurs. Et au final, Vitinha, comme au PSG, a ce rôle de 6, alors que c'est pas vraiment là qu'on l'attend. En revanche, Palinha, qui est un joueur qu'on attend de façon très cliché.
Il pourrait
le
faire un peu plus.
Non, et c'est qu'on s'attend à ce que ce soit un joueur de façon très cliché, de par sa morphologie, d'être un joueur très athlétique. Les fameuses transversales dont tu parlais du gars, c'est souvent lui qui les fait.
Moi, j'aime bien les là pour rebondir et pour finir sur Vitinha. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi, Duga, sur le fait que, en effet, ce joueur-là touche trop le ballon. Trop souvent, il touche trop le ballon. Et c'est pour ça que, à mon avis, au PSG, déjà, il est redescendu d'un cran parce qu'offensivement, il n'arrivait pas à mettre le rythme qu'il fallait mettre et servir les attaquants comme il veut, et surtout des attaquants de vitesse. Oui. C'est pour ça qu'en le mettant plus bas sur le terrain, et ben là, il a été obligé d'épurer son jeu et de jouer, de simplifier un peu plus. Et c'est pour ça qu'il a été bon avec le PSG. Et en effet, quand tu vois l'équipe du Portugal, ça peut être une des solutions. Parce que si Vitinha trouve plus de vitesse dans les transmissions, automatiquement, avec des joueurs de vitesse, tu vas les mettre dans une bonne condition. Léao est un joueur de vitesse. Mendes,
Ouais, oui, bien sûr.
Quoi bon, la prononciation
Todoba.
Laisse tomber, en fait.
T'as progressé, du gars.
Non.
Merci, Nico. On te retrouve tout à l'heure à 20h.
Merci, Nico.
Bien sûr. Et toi, t'as peur, Nico, de la France?
Il a peur de rien.
Bien sûr que t'as peur de la France, surtout quand t'es portugais, mec.
Ok.
En 2004, 2006. Souviens, gros.
C'est vrai que.
Ouais, et 2016.
Et 2016.
Oui, ça vous a pas rassuré.
Bien sûr que non. Bah oui, voilà.
Merci Nico, à tout à l'heure 20h. Allez, et régulièrement dans l'after, dans la libre antenne, pendant 7 euros. On se régale dans une seconde. Ceux qui n'osent plus critiquer le jeu des bleus sont les accusés de
Et il y en a même à RMC.
À tout de suite.
Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
18h28 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Jean-Louis Tour dans 15 minutes. C'est le meilleur de Julien Cazard. Et après 19h, on sera de retour, comme d'habitude, jusqu'à 20h, comme tous les soirs, Jean-Louis.
Pour parler de l'OM, est-ce que le club peut de nouveau avoir de l'ambition?
Ça fait du bien.
Et oui, avec De Zerbi, il y a des premiers mouvements, le travail de De Zerbi qu'on vous décrira avec Florent Germain et vous pourrez débattre au 32-16, mais tout de suite. Toujours les critiques autour de l'équipe de France.
RMC Rotten sans flamme.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? Et ça, ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Faites entrer l'accusé.
Alors, on le dit depuis le début de l'Euro, on ne se régale pas devant les matchs des Bleus. Toujours pas de but inscrit dans le jeu par un joueur français. Et on est en quart de finale, c'est quand même incroyable. Faut-il donc critiquer cette équipe, son manque de jeu, la faillite des individualités, ou rester prudent, car avec Deschamps, ça peut toujours aller au bout. Et il faut se méfier. Ceux qui n'osent plus critiquer le jeu des Bleus sont les accusés du soir. L'accusation est portée par le procureur Christophe Dugarry, qui est très chaud depuis tout à l'heure. Bonsoir, monsieur le procureur.
Mais pas du tout, je suis pas plus chaud que d'habitude, pourquoi?
Ah si, là t'es gonflé à bloc. 7 euros sur place, tu donnes une énergie folle.
Il a vu plus de matchs à Guess the Jour qu'à une saison, tu parles qu'il est chaud. Il peut parler de tous les matchs, de tous les joueurs.
L'avocat de ceux qui ne veulent pas être définitif, c'est maître Eric Dimeco. Bonsoir. Le juge Rotten va trancher. Bonsoir, monsieur le juge.
Bonsoir.
Et nous avons un témoin spécial au cœur de l'événement. Loïc Braillet nous rejoint en direct de Paderborn. Oh, salut Loïc.
Régale.
Bonsoir. Et lui aussi est très chaud, pas pour les mêmes raisons, mais il est très chaud.
Et ton témoignage, Loïc, s'appuie sur une discussion que tu as eue avec celui qui aujourd'hui a été le principal avocat de l'équipe de France, Guy Stéphan.
Absolument. Guy Stéphan aurait très bien pu tenir son propre rôle d'avocat dans votre procès, messieurs, tellement il s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui avec un objectif bien précis, contrer les critiques en mettant en avant tous les points positifs de l'équipe de France selon lui. Alors il démarre avec un chiffre. Les Bleus vont jouer vendredi leur 5e quart de finale sur les 6 phases finales de Didier Deschamps, Euro, Coupe du Monde confondu, depuis qu'il est sélectionneur. Alors sur l'inefficacité des Bleus, bon là, il y a eu un peu de mauvaise foi de sa part en disant qu'hier à l'entraînement, il y a eu des buts quand même. Alors oui, Guy, certes, il y en a eu, mais on s'est amusé à les compter avec mes collègues d'RMC Sport. 17 buts sur 96 tirs à l'entraînement, ça fait moins d'un
sur 5. Oui, mais ça compte pas pour l'Euro quand même.
Alors, ça compte pas pour l'Euro.
Mais c'est quand même quelque chose de factuel. Alors, il a fini par admettre que c'était le gros sujet de préoccupation des Bleus, un point qu'il faut absolument améliorer. Mais malgré ça, il a tenu à mettre en avant une certaine maîtrise des Bleus. Il a par exemple précisé que le but de contre son camp, mais amené par Kolo Muani, a conclu une séquence de 14 passes avec le ballon, qui est reparti derrière avec William Saliba. Il a insisté sur l'excellente défense des Bleus, qui n'a pas pris de but dans le jeu, sur la possession du ballon supérieure à tous ses adversaires, sur les occasions de but à chaque match plus nombreuses que les adversaires. Je préfère voir la bouteille à moitié pleine, nous a-t-il dit. Sur le cas Griezmann, il explique d'abord que le choix tactique de le mettre à droite, c'était pour avoir une meilleure occupation de la largeur, tout en lui laissant la liberté de se recentrer dans l'axe parfois, ce qui est un petit peu arrivé. Il insiste sur le joueur collectif qu'il est, qui se dévoue pour l'équipe, tout ça après ce qu'il a fait pour les Bleus, 44 buts en 133 sélections. On ne peut pas le remettre en question aujourd'hui. Il ne mérite pas les critiques actuelles, selon Stéphan. Enfin, sur le cas Mbappé, selon l'adjoint du sélectionneur, on a minimisé l'impact de sa fracture du nez, un choc traumatisant et le port du masque qui le gêne notamment dans sa vision périphérique. Oui. Sa fin de saison a été particulièrement éreintante, mais il reste un top joueur qui tourne à quasiment un but par match en bleu depuis l'Euro 2021. Voilà les principaux axes de défense de Guy Stéphan.
Très bien, merci Louis.
Merci Stéphan.
C'est important de les avoir en tête. Alors, monsieur le procureur Dugarry, pourquoi il faut continuer de critiquer le jeu de l'équipe de France?
Non mais il faut dire ce qu'on veut du football. Chacun a le droit d'avoir une vision du foot qui lui plaît. Voilà, il y en a pour qui juge le football par le prisme des résultats.
T'es bien en face du micro là, tout va bien.
Est-ce que tu m'entends?
Ouais, là. Allez, vas-y.
C'est mieux là.
C'est bon.
Ah ben là, je suis en train de le manger. Je l'ai dans la bouche le micro. C'est pas très grave.
Non, ça va aller.
Bon.
Non.
Bon, dis-moi. Non, mais chacun regarde le football comme il a envie. C'est-à-dire, il y a le prisme du résultat et ceux qui ont envie de se régaler en regardant un match de football. Voilà. Les gens qui ont envie de se régaler à un match de football, ils n'ont pas à avoir honte. Et s'ils ont envie de se régaler en regardant le match de l'équipe de France, ils ont le droit de le dire. Tout comme ils ont le droit de dire qu'ils se font chier en regardant jouer l'équipe de France. Chacun est libre de regarder les matchs avec sa vision qu'il a. Voilà. Et moi, j'en ai marre que l'on puisse critiquer parce qu'il y a une jurisprudence Aimé Jacquet. C'est vrai. Il y a tellement de gens qui nous ont défoncés en 98 et qu'après on a fini champion du monde, que maintenant plus personne ose tailler parce qu'ils se disent, ah mais si on est champion, on va passer pour des...
Et jurisprudence 2018 aussi du gars Didier Deschamps.
Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave de passer pour un imbécile. Il n'y a pas de vérité. Est-ce qu'on est là? On est là pourquoi? Pour savoir qui a le plus raison, qui a le plus tort. Personne a raison totalement. Personne a tort totalement. Il n'y a aucune vérité dans le football. Voilà. Chacun vit avec les émotions qu'il a envie de vivre. Moi, quand je me suis plaint du jeu après le titre de champion du monde en 2018, on m'a dit, après la finale perdue contre l'Argentine, pardon, quand je me suis plaint du jeu et notamment de la finale, on m'a dit, ah, mais t'es un rabat-joie, t'es jamais content, l'émotion était incroyable. C'était génial. Et moi, je disais juste, oui, mais on a perdu. Et là, maintenant, quand je dis, mais l'émotion, j'en ai aucune, on me dit, ah, mais t'as qu'à regarder le résultat. Bon, mais faut savoir, faut que je regarde le résultat ou faut que je vive par l'émotion. Voilà. Moi, je dis ce que je pense quand j'ai envie de le dire. Et les gens ont le droit de dire que quand tu regardes l'équipe de France ou d'autres équipes, tu t'ennuies. Il peut gagner. Il peut aller en finale. Il peut gagner le championnat d'Europe de la sorte. Et j'aurai le droit de dire bravo d'avoir gagné, mais je me suis ennuyé toute la partie. Et ceux qui vont m'expliquer que le football ne se remémore et ne s'oublie pas uniquement par ses résultats, c'est une hérésie. Moi, je réclame de la qualité de jeu dans cette équipe de France parce que l'équipe de France a les moyens de nous proposer un autre football que ce qu'il propose aujourd'hui. On a une génération incroyable. On a une génération dorée. Je suis persuadé qu'on est capable de proposer autre chose que des résultats. Moi, j'ai souvenir. Mes plus beaux souvenirs de football, je vais te dire une chose que c'est même si j'étais très jeune, c'est le Brésil quand tu vois jouer la meilleure équipe du Brésil, mais ses résultats je m'en souviens pas. C'est l'équipe d'Espagne quand elle domine l'Europe et que son football est alléchant. C'est le Barça quand il a son équipe extraordinaire avec Guardiola, avec Messi, avec Iniesta, avec Xavi. Et je suis incapable de te dire combien de Ligue des Champions ils ont gagné. Je m'en
fous. C'est la phrase dans les années 80 aussi du coup quand même.
Par exemple.
Ah, oui, j'espère aussi. Quand même.
Moi je me souviens plus des scénarios de match, comme je me souviens de Maradona quand il fait sa main, quand il dribble toute l'équipe et qu'il va marquer ce but incroyable. Je suis incapable de te dire si l'équipe d'Argentine a été au bout ou pas au bout à ce moment-là. Je me souviens des moments de match. Voilà. Et moi,
il a gagné quand même là.
Non mais je m'en souviens même pas. Je me souviens du but et je me souviens.
Oui mais là c'est Alzheimer alors du coup là il faut faire.
Non
il faut
c'est
consulter.
Pas Alzheimer c'est non. Que chacun non c'est des gens il y a des gens. Alors moi je suis censé être un spécialiste du football, je ne suis certainement pas. Je regarde le foot, je suis un passionné, mais il y a des gens qui regardent des matchs de temps en temps et c'est la plupart des gens qui ne sont pas des spécialistes du football et eux ils ont envie de se régaler, de voir des buts, de voir du spectacle, de voir des gens qui courent, des mecs qui ont envie. Voilà, juste ça, et je vois pas pourquoi ce serait un drame et ce serait une erreur que de pouvoir le dire. Il faudrait se cacher, de dire ah oui mais l'équipe de France alors, joue mal, et on s'ennuie, mais les gens ne peuvent pas le dire parce qu'on sait jamais.
Allons-y, Eric.
J'ai pas compris ce procès parce que, contrairement à ce que dit Duga,
c'est ton procès.
J'ai pas. Ah, bah non, non. Non, ça peut pas être mon procès puisque j'ai émis des critiques comme tout le monde.
Oui, mais tu nous as dit hier quand même, vous étiez tous les trois hier avec Jean-Michel et Eric Roy à dire on va pas être trop définitif parce qu'on sait jamais
non,
on aura
non,
la fin
non,
si on
non,
est en finale
non,
ou si on gagne.
Pas du tout. Non, tu n'as
ah, pas compris alors.
Oui, tu n'as pas compris. Non, mais je vais revenir à ce qu'a dit Duga. Je pense qu'on a pris beaucoup d'auditeurs depuis le début de la compétition, voire même depuis le début, les débuts de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il n'y en a pas beaucoup qui nous ont dit qu'ils sont régalés devant les matchs de l'équipe de France. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas dire qu'on se régale pas devant les matchs de l'équipe de France, c'est critiquer le jeu de l'équipe de France. C'est la majorité des supporters de foot, voire même des suiveurs occasionnels sur les compétitions finales, que je sache. C'est là oui. Où je comprends pas.
C'est-à-dire
que
en fait.
C'est-à-dire oui, voilà. Et ensuite, il y a peut-être une différence juste entre ceux qui croient encore au Père Noël, c'est-à-dire ceux qui pensent que Didier Deschamps a changé. Malgré le matos qu'il a entre les mains, et on a rigolé lundi soir quand il a fait les changements, c'était ouais. Un sujet de rigolade où quand il sort milieu terreux, c'est dit tiens peut-être il va mettre un attaquant, et puis on rigolait parce qu'il avait fait du poste pour poste, parce que on croit plus au Père Noël, c'est tout. Et quand tu ne crois plus au Père Noël et que tu as un entraîneur qui est là depuis 12 ans et que tu as surtout un entraîneur qui est avec son équipe, parce que je pense que il a une équipe comme ça, une machine de compétition, eh ben, parce que pour moi, critique, bah, alors dire qu'on se régale, on l'a tous dit, on l'a dit lundi soir quand on regardait le match tous les deux, que je sache, Jean-Louis, oui. On s'est ennuyé, quand tu t'ennuies, je veux dire, l'ennui, bien sûr que, on peut regarder un film et un l'aime, l'autre l'aime pas. On peut regarder un match, l'autre l'aime pas. Mais l'ennui, tu ne peux pas te cacher devant l'ennui. C'est-à-dire, quand tu regardes un match et que tu t'ennuies, qu'il se passe rien.
Le débat, c'est pas l'ennui, c'est est-ce
qu'avec cette façon de jouer, c'est ce qu'a dit.
À ce niveau-là, on peut aller loin.
Oui, mais c'est ce que, c'est ce que.
En produisant si peu de jeux, on peut aller loin.
Eh ben, c'est justement là où, quand je dis, il y a ceux qui croient au Père Noël et ceux qui ne croient pas au Père Noël, moi je ne crois plus au Père Noël. C'est-à-dire que Didier Deschamps nous scotchera jamais devant une télé. Voilà.
Donc on est condamné à attendre le résultat.
Et surtout, on a quand même payé ces dernières années pour voir cette équipe-là qu'on a critiquée. Je le répète, c'est la majorité des suiveurs qui critiquent, des suiveurs proches ou lointains qui critiquent. Et régulièrement, elle va au bout, cette équipe-là. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le débat d'avant. Est-ce que tout simplement, et c'est mon cas, quand je regarde, mais ceci dit, pour tous les matchs, parce que j'ai pas vu beaucoup de bons matchs pendant cette compétition, et ben, pas beaucoup d'équipes qui m'enthousiasmaient à part l'Espagne. Voilà. Même l'Allemagne m'a ennuyé sur deux matchs, là. Le dernier, le huitième, et celui de dernier de poule. Les Anglais n'en parlent pas, ils sont catastrophiques, avec du matos aussi important que nous. Et donc, moi, j'ai pris mon parti de, eh bien, le plaisir, on va le prendre dans la victoire. Et les gens qui sont autour de moi, qui regardent que les compétitions tous les deux ans, eh bien, ces mecs-là, ils vont défiler à la fin de la compétition, si jamais ça gagne encore une fois. Et les gens vont être heureux, surtout qu'en ce moment, bah, c'est un des rares, si ça se passe bien, ce sera peut-être un des rares moments dans le mois de juin et juillet où on aura pu prendre du plaisir. Et je ne peux pas critiquer les gens qui prennent juste du plaisir dans la victoire en ce moment sur les matchs de l'équipe de France. Voilà, c'est pour moi, les critiquer, c'est trop. Pour moi, c'est trop facile. Tu te mets devant un match, c'est nul, et tu gueules, c'est nul. Mmh. Ouais, bah, tout le monde l'a vu que c'était nul. Je le répète, c'est la grande majorité qui disent que c'est nul. Voilà, maintenant, il faut juste avoir un peu de mémoire et se rappeler que cette équipe-là est une machine de guerre en compétition finale. Voilà, et que peut-être on va prendre le plaisir sur une éventuelle victoire, voire des matchs qui vont devenir tendus parce que l'enjeu va devenir important, voire avec des matchs serrés et des pénaltys, je sais, moi encore.
Donc on est condamné à ça.
Ah ben oui, pourquoi tu croyais quoi, toi? Tu croyais qu'il allait y avoir des envolées lyriques pendant cette compétition?
C'est le moment de Jérôme, là, de trancher, Jérôme, ce que tu entends.
Donc tu crois encore au Père Noël, du gars?
Non, je croyais qu'il serait parti depuis bien longtemps, moi, donc c'est
bien. Non, mais ça, c'est un autre problème, c'est pas le débat du jour, hein.
Jérôme.
Bon. Non, mais je vais aller sur Duga. Je crois que aujourd'hui, on est en droit de critiquer l'équipe de France.
Oui, ce que j'ai dit aussi.
Parce que y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens qui aujourd'hui sont refroidis par rapport aux critiques d'avant. Et en effet,
mais qui est refroidi? Je comprends pas votre propos. Bah, je n'ai entendu que des critiques. On fait l'émission avec Jean-Louis régulièrement.
Je suis le juge.
Mais j'ai pas entendu un supporter dire je me régale.
Il y a plein de gens et il y a d'autres émissions.
Est-ce qu'on va pouvoir aller loin?
Non, mais de toute façon,
avec ces prestations là,
il y a même plein de gens qui veulent plus répondre à ça, voilà. Jean-Louis, parce qu'ils ont peur de passer pour des cons, parce que tu critiques sur les matchs du premier tour et sur les huitièmes de finale. Donc, il y en a plein, Eric. Il y en a plein.
Mais qui?
Il y en a plein. Fais l'émission à partir de 20h dans l'after, et déjà, il y en a. Voilà. Et pour aller chercher. Pas aller chercher plus loin.
Non, mais ils disent pas quand même qu'ils se régalent devant les matchs de l'équipe de France.
Non, mais les critiques, c'est on peut pas être définitif parce que Didier Deschamps nous a déjà montré que cette équipe on gagnait et ça va nous fermer les bouches. Non, pas du tout, parce que moi j'ai passé un cap et vous le savez, j'étais un des premiers à défendre Didier.
Je trouve que t'as pris en maturité.
Non, mais du gars, je vais te dire, et c'est vrai qu'on rappelle-toi, on a passé la Coupe du Monde 2018 ensemble et on l'a fait. Il y a eu beaucoup de critiques. Tu faisais partie de ceux qui critiquaient beaucoup.
Oui, tu n'avais pas passé toute la Coupe du Monde avec lui. Hein. Il était parti 15 jours en vacances avant nous.
Il s'est arrêté juste avant, et puis après il est revenu, et puis après il a disparu. Mais peu importe.
Là tu mets 15 jours, tu critiques, et après tu pars en vacances. Moi je peux le faire, ça aussi. Hein.
Eric, les critiques, elles étaient élevées, elles étaient peut-être justifiées. Moi je défendais parce que je trouve que dans la façon de faire de Didier Deschamps, il y avait quand même de l'émotion. Et Duga en a parlé. On est en droit d'attendre que l'équipe nationale, l'équipe de France, qui est vice-championne du monde, qui a été championne du monde en 2018, qui a une équipe avec un potentiel, une génération dorée quand même. On a quand même des bons joueurs, des grands joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Que aujourd'hui, l'équipe de France, elle dégage plus de maîtrise, plus de jeu, que ça soit plus spectaculaire et surtout plus d'émotion. Moi, je m'en fous d'avoir une équipe défensive. Mais quand tu as le ballon, il faut savoir quoi en faire. Il faut ça rendre le foot quand même spectaculaire. Et on a retenu en 2018 les envolées de Kylian Mbappé, les récupérations de Griezmann, Pogba. Il y a des joueurs qui ressortent. À la Coupe du Monde 2022...
Il y a des matchs incroyables aussi en 2018.
En plus, il y a le match de l'Argentine.
L'Argentine, la Croatie.
C'est un peu, en fait, l'arbre qui cache la forêt sur la Coupe du Monde 2022 parce qu'on est dans la continuité. C'est ça qui me dérange. C'est qu'en 2022, franchement, on était horrible sur les premiers matchs. Et on a été bien, ça a été masqué par la finale, le scénario de la finale, parce que pendant 75 minutes, on était à la rue complet. Et le scénario a fait que cette finale est devenue complètement folle et on a perdu au pénalty, peu importe. Ça, c'est
et elle va rester dans l'histoire.
Un peu de choses. Oui, mais sauf que...
De juste, la Coupe du Monde, je parle juste pas
sur
de la France.
Juste sur la finale... Ok, je te rejoins, Eric. Mais sur l'ensemble de la compète, on a déjà oublié tous les matchs catastrophiques.
On s'est fait rouler dessus par l'Angleterre.
La Pologne aussi, le Maroc qui nous a gagné la possession de la balle. Donc, si tu veux, on peut refaire l'histoire. 2021, l'Euro.
Ce qui t'embête, c'est que ça s'enchaîne.
Et aujourd'hui, ça s'enchaîne. Et pour moi, il y a une lassitude qui est terrible avec Didier Deschamps. C'est que, en effet, il est là depuis 12 ans, mais ça fait 8 ans qu'on l'a défendu, que je l'ai défendu. Et là, pour moi, il s'est perdu depuis 5-6 ans. Et il se perd complètement aujourd'hui, et même dans la communication. Et moi, j'ai peur qu'en effet, au d'un moment, il y ait le coup près, ça tombe, et que ça nous fasse mal. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, franchement,
on en reparlera demain,
il va laisser,
on en reparlera vendredi, avant ce quart de
pas
finale,
grand chose,
face au Portugal. Dans une seconde, c'est Julien Cazard, à tout de suite.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h50 sur RMC, on est là, on est bien, on finit la première heure de Roten sans flamme avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. Ça va être le meilleur de Julien Cazard dans un instant. Et après 19h, Jean-Louis, un
L'OM.
Bon programme.
L'OM, le club peut-il de nouveau avoir de l'ambition? 32-16, on aura des infos mercato à vous donner. Mais tout de suite, comme tous les soirs, toute l'année avant 19h, c'est le moment de Julien Cazard.
Le Cazard enchaîné.
Vous savez que c'est l'opération On est les plus forts, le grand casting pour trouver la chanson qui va représenter la France à l'Euro. C'est le premier jour des trois candidats. C'est maintenant.
Opération On est les plus forts, le casting de la chanson.
Bon, ok les gars, on est prêts. C'est qui le premier candidat?
C'est Patrick Bruel.
Ah bah génial. Bonjour Patrick, merci de nous faire l'honneur de passer ce casting de la chanson de l'Euro pour les Bleus.
Non, mais ça me fait plaisir parce que les Bleus c'est mon équipe, c'est l'équipe qui compte pour moi.
Ok, bah super, vas-y, bah, on t'écoute.
Allez, c'est parti.
Ça va, merci.
On est à la mode piquet.
Faire la Mendy, Giroud, Collé, Pavard, Kanté, Koundé, Griezmann, Hernandez, Rabiot, Fofana, Areola, Maignan et Saliba. Pardon, Patrick. Pardon, mais tu comptes juste dire la liste de Deschamps, là, comme chanson pour les Bleus?
Bah oui, parce que j'ai vu que VG Dream l'a fait et que ça a marché, donc bon.
Ah oui, mais VG Dream, c'est un autre délire, c'est plus compliqué. On propose qu'on revienne demain avec une autre proposition, Patrick?
Bon, oui, d'accord, à demain, alors.
Oui, pas de soucis, à demain. On en a un autre, là, parce que...
Bah oui, on a Jean-Baptiste Guégan.
C'est qui, c'est un joueur de Ligue 2?
Non, c'est le mec qui fait la voix de Johnny, mieux que Johnny.
Ah, super, bon, ben... Ah ben, bonjour.
Bonjour, c'est JB.
Oui, bonjour, oui.
J'avais envie de rendre hommage au bleu, à la manière de Johnny, en me mettant dans la peau de Didier Deschamps.
Ah ben, c'est super, ça, ben... Ben, on écoute, allez-y.
On est les plus forts. Ils sont les plus faibles. On va gagner avec Choumani et Kamavinga, puissant comme un aigle. Colomani, il apporte la navigation.
Pardon. Alors, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de parler le DD. J'ai peur qu'ils le prennent mal. Donc, et puis la référence à Johnny en 2002, c'est pas ouf.
Ah bon? Je vais bien, moi, le côté bafouille, ça me parle.
Oui, merci. On a un dernier, là?
Ah oui, on en a. Il a l'air pas mal. En tout cas, il a une bonne gueule.
Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Il est muet, là? Ça va être compliqué.
Non, je crois qu'il se concentre.
Bon, ben, on vous écoute, alors.
Non.
Watch the tree. When the user's full.
Oula, stop, on va s'arrêter là. C'est très bien, mais ça va pas trop le faire. Hein. J'avais dit une chanson en français pour représenter la France.
Oh, c'est pas moins français que Aya Nakamura ou Jul. Hein.
Ah ouais, c'est pas fou.
Le casar enchaîné.
On propose le deuxième jour de casting de l'opération On est les fus forts.
Opération On est les fus forts, le casting de la chanson.
Ok, bon, on a qui aujourd'hui, là? J'espère que t'as eu lourd à me proposer.
Ah bah oui, on a assez plus que de lourd. C'est le gars qui représente la France qui gagne.
Qui, Jordan Bardella?
Et non, Michel Sardou.
Ah oui, en effet. Ah bah, bonjour Michel.
Bonjour.
Bon, bah, ok, bah, on vous écoute.
Cette équipe s'en vont les Antilles, les chantent quand on le Botswana.
Ah oui, carrément.
Oh mais attends, tu vois.
Pour une coudée, pour Chamini, on se trémousse comme un douala.
Pardon, mais on est sûr, hein?
Oui.
On joue du tam-tam, du djembé, pour Diaby, pour Areola.
Non mais...
C'est tout un peuple qui va chanter sur le son des voilà-voilà. Afrique en bleu.
Michel, merci. Alors, très belle mélodie, très entraînante, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment fédérateur et dans l'esprit. Hein, mais merci quand même. Hein. Le suivant.
Bonjour.
Ah, c'est encore Patrick. Bon, vous êtes revenu, donc vous avez peut-être recentré sur l'essentiel cette fois.
C'est vraiment l'essence des Bleus.
Parfait, on vous écoute.
Ça va, Zénith?
On est toujours à la même pique.
Oh, Mélie, faut jouer en 3-5-2. Et moi, tu sais, ta tactique de mêle, gegen pressing, toqué, attaque, placé. Je m'en bats les steaks, je balance sur Mbappé. On a de la chatte, on a de la chatte. Les Anglais, les Portugais, allez tous vous faire bien.
Merci Patrick, j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore. On est pas loin, hein, mais on y est pas. Hein, il en reste un là.
Ah bah oui, il y a Gilbert.
Quoi, il y a Gilbert Bribois?
Non, Gilbert Montagnier.
Ah oui, génial.
Ah, Gilbert.
Bah, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Allez, Gilbert.
On va gagner en étant claqué. On va gagner même sans attaquer. On va gagner parce qu'on a Dédé. On va gagner même si on sait qu'on va se faire super chier. Lutter contre le sommeil dans le canapé. Faire des tours de garde pour pas craquer. Boire des litres de café. On va gagner. À 10 derrière, on va les dégoûter. Nous, on s'en fout, on a pris un duvet. On va attendre dans la surface et on va camper. Wow.
Merci Gilbert. Je sais que c'est le message de Grisou, mais on va tenter un truc plus positif. Je crois qu'on va remettre à demain là parce qu'ils m'ont fatigué.
On va essayer. C'est pas mal. C'est pas encore ça.
Ouais, mais c'est pas mal.
C'est pas mal. On progresse. Bravo. Ça sera mieux demain.
Et on sent que tu te fais plaisir.
Oui, ouais, merci.
C'est ça.
RMC, le casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Vous pouvez vous refaire les meilleurs casars enchaînés de la saison sur la chaîne de Roten sans flamme en podcast. Sinon, rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux casars enchaînés. Et si vous êtes fan de Julien, il est dans la libre antenne chaque soir de match de l'Euro. Il sera donc de retour vendredi entre 00h30 et 01h30. Dans une seconde, l'OM avec deux Zerbi, le club peut-il de nouveau avoir de l'ambition? 32-16 pour débattre dans Roten sans flamme.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h03 sur RMC, on est là, on est bien. La deuxième heure de Rotten sans flamme, c'est maintenant avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarrier, avec Jean-Louis Tour. On continue nos débats. On a parlé de l'Euro sur la première heure, donc si vous avez raté, elle est disponible en podcast. Mais là, on va parler un peu du championnat de France, ça fait du bien. Et oui, ça va reprendre bientôt.
On va parler Ligue 1, on va parler aussi des JO. De l'équipe de France au JO.
En plus, il y a une nouvelle.
Et oui, nouveau coup dur pour Thierry Henry. On va en parler dans le ring des supporters.
Un en moins.
Peut-on vraiment y croire pour ces Jeux en France à une médaille? 32-16 pour monter sur le ring des supporters. L'actu du jour aussi à 19h45. J'ai une arrivée surprenante dans l'organigramme de l'arbitrage professionnel français.
Ah oui.
Ah, tu vois
t'as pas vu ça, Jérôme?
Bah non, j'ai pas.
Alors, reste avec nous.
Plus, c'est, tu le connais bien. Hein.
Voilà, 19h45. Hein oui, oui, tu le connais bien. Ah, t'en parles souvent.
Benoît Billot?
Non.
Non, mais là, ne dis pas. Jean-Louis, laisse le chercher.
On
ne
trouvera pas, de toute façon, on ne trouvera pas. Ce sera tout à l'heure, 19h45. Attends. Jean-Pierre Papin?
Mais non. Un ancien joueur?
Je te l'ai dit, oui, quelqu'un que tu connais. Voilà. Ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, le mercato, les Marseillais peuvent de nouveau rêver.
Je reviens te chercher.
De Zerbi est officiellement l'entraîneur de l'OM.
Entre l'OM et De Zerbi, il y a un accord de principe sur tous les plans salarial, durée de contrat, ce sera 3 ans.
Et je savais que tu m'attendais.
J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à Tourbon comme ça.
Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau. Et
vite, vite de Boli.
Les seules fois que je rêve au football, j'ai le maillot de l'OM.
Je savais que l'on ne pourrait.
C'est beau ça. Hein. J'avais pas tenu cette punchline là.
Du gars, bah oui. Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Ouais. Tu vas rentrer à la mi-temps dans ce putain de vestiaire, tu vas voir le moral, moi, comme je te le remonter.
Au titre de punchline. Hein. Après du gars, Pascal Olmeta.
Ouais. C'est vrai que ça s'est vérifié.
Ils vont être champions.
Ouais, ils vont être champions.
J'avais jamais entendu, elle était belle cette phrase. Quand je rêve au football, j'ai le maillot de l'OM. Ouais, c'est beau ça.
C'est bizarre. Hein, c'est bizarre. C'est à chaque fois que je rêve, c'est rare. Hein, c'est rare que ça m'arrive, mais à chaque fois, je porte le maillot de l'OM.
Toi, Eric, jamais.
Alors, je rêve plus de foot depuis longtemps.
Toi, tu rêves d'être en concert à la place de.
Non, mais je rêve plus de foot depuis longtemps. Ah, ouais. C'est dommage d'ailleurs.
C'est triste.
C'est triste, ouais. Mais bon, après, c'était il y a longtemps, moi.
La dernière fois que tu as rêvé de foot, c'était quand alors?
Ben, c'était il y a longtemps, je pourrais pas te le dire.
Il y a quoi, il y a 40 ans?
Non, quel est con ce mec alors.
Non, mais devant les matchs des Bleus, tu rêves un peu foot en fait.
Ouais.
Dans un autre style.
Non, mais rêver foot. Quand tu arrêtes ta carrière, c'est vrai que il y a des moments où tu te réveilles, tu crois que tu es encore joueur et tu rêves que tu vas t'entraîner ou tu rêves de foot, tu rêves de match, mais ça dure un certain temps, mais après, à un moment donné, ça s'arrête, hein, Et c'est une belle phrase, j'avais jamais entendu ça.
Eric, tu sais que tout à l'heure, tu m'as posé la question si je rêvais encore sur le jeu de Deschamps. Tu sais que j'y crois encore. Je vais être un triple abruti parce que j'y crois. Mais tu sais ce que j'y crois. Tu sais ce que je crois plus, c'est que je pensais pas qu'on pourrait régresser. Je m'étais dit, avec tous les dingueries que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas possible que je m'en dise plus encore, tu vois.
Non, mais là, tu sais qu'on régresse parce que les mecs qui font la différence dans ce jeu stéréotypé sont pas bons. C'est tout.
On a touché le fond.
Ah non, mais tu vas pas commencer à critiquer Griezmann, Eric, quand même pas toi.
Ah non, mais moi, la différence entre toi, la différence entre toi et moi, c'est que moi, quand il est pas bon, je dis qu'il est pas bon. Ah ouais, quand il est bon, je dis qu'il est bon. Ah bon, mais toi, tu disais qu'il était pas bon.
J'ai pas entendu depuis le début de l'Euro, t'as dit, il est bon avec l'équipe de France.
Mais comment tu veux dire qu'il est bon depuis le début de l'Euro? Qu'est-ce que tu racontes, toi?
Mais
la différence, toi, c'est que quand il était bon, voire très bon, tu disais qu'il était moyen.
Non, c'est pas faux.
Ah oui, c'est l'exigence, c'est ça.
Ouais. Et là, j'ai envie de le défendre maintenant, c'est fou. Hein.
De défendre Griezmann?
Ouais.
Bon, on le fera une autre fois.
Oui.
Là, on va parler de l'OM. Les Marseillais.
J'ai hâte, moi, de dire que l'équipe de France est hyper bonne, qu'on se régale. Tu vois, un beau 4-0 contre le Portugal. J'ai envie d'être euphorique, j'ai envie de transpirer, j'ai envie de kiffer.
Non, mais là, t'es complètement malade.
Avant, on a tous envie.
Je suis frustré. Je te jure, je suis frustré.
Toi, t'es frustré.
J'ai mal au ventre. Je regarde les matchs de l'équipe de France.
Moi, je suis traumatisé, mais bon. Toi, t'es frustré.
Chacun son truc.
On est tous un peu comme ça.
Non, mais là, bon, bref. Vendredi, ce sera peut-être la folie. Ce sera peut-être le France-Argentine de 2024.
Allez, voilà. Allez les Bleus, on y croit. Allez.
C'est tellement pas crédible. Ouais.
Ah mais c'est pas toi qui va, allez. C'est pas toi qui va commenter le match.
Ça sonne faux.
Bah si si. Mais oui, c'est Dugas qui commente. Ah,
si c'est vrai.
Il est sur M6 le match, Dugas, c'est toi qui le fais.
C'est Dugas à la télé, mais ce sera quand même mieux à la radio avec Jérôme. Eh oui, et j'adore essayer. Ouais. Au stade.
On peut faire les deux.
Mais
on faire les deux.
C'est pas Jean-Marc Ferreri,
les deux, c'est pas
sûr.
Simple quand même. Non, c'est pas Jean-Marc Ferreri. Dugas l'a complètement mis de côté. Pour Jean-Marc Ferreri.
Oh le pauvre. Fefe, tu l'as pas respecté. Hein.
Oust.
Mais si, je l'adore en plus, mon copain.
Ouais, c'est pas ce que tu me disais. Mais
bon, allez, l'OM, on y va. Deux Zerbi est là. Deux Zerbi travaille. Est-ce que c'est le retour de l'ambition? 32-16 pour débattre. Pour beaucoup, c'était inespéré d'avoir un tel coach à Marseille sans Coupe d'Europe. C'est bien la réalité.
Pour moi, notamment.
Avec en plus les premiers mouvements qu'on va vous détailler tout de suite avec Florent Germain qui suit l'OM au quotidien, même en étant en Allemagne sur l'Euro, c'est magnifique.
Oh là là, ce Flo alors.
Et d'ailleurs, le vrai match de vendredi, c'est Espagne-Allemagne. J'y serai et c'est un bel apéritif pour le France-Portugal.
C'est pas mal.
Espagne-Allemagne à Stuttgart.
Ça sera forcément mieux au niveau spectacle.
Moi, j'ai pas les problèmes d'ennui quand je regarde les matchs. Ça, c'est peut-être parce que je vois surtout l'Espagne.
C'est surtout que tu vois pas l'équipe de France.
Ça doit être ça.
Tu feras une grosse compète en suivant l'équipe de France.
Mais tu vas vite te retrouver dans le bain en regardant les matchs de l'OM.
On verra. Écoute, on verra avec qui déjà, parce que je sais que Jean-Louis voulait justement évoquer les noms qui sont déjà officiels. Donc Ismaël Koné, 22 ans, international canadien, milieu de terrain. Il a signé 5 ans, c'est officiel, pour une somme d'environ 12 millions d'euros. Il était à Watford cette saison. Vous l'aviez peut-être vu en match amical contre les Bleus, donc avec le Canada. Les autres qui sont quasiment bouclés, je pense que peut y avoir une officialisation aujourd'hui ou demain. C'est Lilian Brassier, bon, on en parle depuis plusieurs jours, le défenseur de Brest, qui a passé sa visite médicale aujourd'hui. De toute façon, ça va s'accélérer puisque la reprise de l'entraînement, c'est demain. Il y a d'abord des tests médicaux et physiques et ensuite une reprise en groupe lundi. Mais donc, tout va s'accélérer avec la reprise de l'entraînement. Les autres dossiers, alors Paolo Lopez est sur le départ. Il y a des négociations qui s'intensifient avec le club italien de Côme. Après, pour le remplacer, on n'en est pas encore à un stade très avancé. Meslier de Leeds... Jorgensen, c'est un nom qui est sorti aujourd'hui. Il y a eu quelques contacts. C'est le gardien de Villarreal. Tout comme avec Brice Samba, il y avait eu quelques conversations, mais aujourd'hui, on a compris dans les déclats de Brice Samba qu'il était encore loin de l'OM.
Il a dit quand même tout
c'était
ouvert,
loin d'être fait. Oui. Bah lui, il aimerait bien, effectivement. L'OM le suit, mais je pense que financièrement, c'est un dossier qui est très compliqué, que Lens ne va pas le brader loin de là.
C'est quand il était chez nous.
C'est con, ouais.
C'est quand il était chez nous. Ça, c'est ballon.
Comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres par le passé. Alors, au milieu de terrain, Jordan Veretout, l'OM veut qu'il parte. C'est d'ailleurs un dossier qui est un petit peu tendu, un peu compliqué, parce que Marseille a trouvé un accord avec le club qatari d'Aldouaïl. Et il ne veut pas, ou est un peu réticent à y aller, ou de un petit peu trop d'argent, voilà, selon les sources. Bref, en tout cas, Marseille est un peu vexé que Veretout hésite à partir, alors qu'a priori l'OM et le joueur, en tout cas son entourage, avaient ils avaient un peu un deal que si à un an de la fin de son contrat il y avait une offre très intéressante, il faudrait partir parce que et alléger la masse salariale. Mais il y a par contre un nom qui est sérieux, c'est un jeune joueur aussi, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des profils très très jeunes et qui collent à ce que souhaite Roberto De Zerbi. C'est Valentin Carboni, italo-argentin. Il est avec la sélection argentine en ce moment pour la Copa América. Il a fait une très bonne saison avec Monza. Il a à peine 20 ans, mais l'OM le veut absolument. Donc il y a des négos en cours. Et puis concernant l'attaque, pour faire simple, Ndiaye, c'est officiel, il part à Everton. Sarr devrait également s'en aller. Et il y a un petit point d'interrogation concernant Aubameyang. C'est vrai qu'il va reprendre l'entraînement. Il a laissé filtrer l'idée qu'il voulait rester, mais en même temps, il y a une offre de l'Arabie Saoudite qui ne le laisserait pas insensible. Donc il y a un petit point d'interrogation quand même concernant l'avenir d'un grand joueur, du grand joueur de l'OM la saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang.
Merci Flo. Jérôme, est-ce que selon toi, c'est le retour de l'ambition de Zerbi, ses premiers mouvements, ce que t'entends?
Oui, en fait, rappelle-toi, quand on a annoncé l'arrivée de Zerbi, j'avais été dur envers de Zerbi, mais c'est pas envers le coach, c'est l'image qu'on lui colle, tu vois, c'est pas Ancelotti qui arrive. Lui aussi a ses preuves à faire dans un club comme l'OM, mais pour faire ses preuves et pour mettre ses idées en place, il faut absolument que l'effectif il change, parce qu'avec tous les joueurs de l'OM de cette année, tout cet effectif-là, c'est pas possible. Tu peux avoir tous les meilleurs plans du monde pour jouer au football, tu n'y arriveras pas si les mecs ils ont les pieds palmés et qu'ils sont pas au niveau de l'Olympique de Marseille. Et ce qui est bien, si tu veux, dans ce que nous apporte Flo Fraté là, dans ses négos de transfert, les départs ou pas les départs, c'est que j'ai l'impression que l'équipe type de l'OM de cette année, déjà les trois quarts ils vont partir. Et donc ça c'est quand même.
Bah, c'est un aveu d'échec sur le recrutement de l'année.
Non, mais c'est un aveu d'échec, Eric, mais c'est bon.
Et parce que financièrement, t'as des gros salaires aussi, donc
en plus, mais c'est un bon signe si tu veux envoyer à De Zerbi pour mettre son idée en place, ses idées en place, pour recruter des joueurs qu'on ne connaît pas. Moi, je vais pas te dire que l'Argentin, l'Italo-Argentin, je le connais, que le Canadien qui jouait à Watford, j'ai vu les matchs de Watford, ça serait vous mentir. C'est pas vrai. Alors, j'ai vu, depuis qu'il y a le nom, il a joué contre l'équipe de France, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Ce que je veux dire, c'est que je sais pas s'ils vont s'adapter au contexte marseillais, mais ce qui est bien, c'est que on va redécouvrir une équipe avec un groupe de joueurs qui va être à fond derrière De Zerbi, parce qu'en général, De Zerbi arrive à tirer le maximum de ses collectifs, et les joueurs qui sont passés sous les ordres de De Zerbi disent tous que c'était un bon moment à passer, même ceux qui ont moins joué. Donc tout ça, c'est
prometteur.
Bah, c'est prometteur. Ça, de toute façon, ça peut pas être pire que cette année ou qu'il y a deux ans. Donc c'est prometteur. Il y a de l'instabilité, mais cette année il en fallait. Maintenant, il faut construire et il faudra laisser le temps, parce que le temps, malheureusement, dans un club comme l'OM, on en a pas. Et on va regarder tout de suite les résultats si ça prend. Mais je pense qu'il faudra être aussi indulgent sur les premiers mois.
Eric.
Alors écoute, pour revenir au coach, on avait fait les débats, hein, puisque je crois qu'on était encore, c'était avant l'Euro, hein, quand De Zerbi a discuté, donc on avait déjà parlé de cette éventualité-là, qui pour moi était un petit miracle déjà, hein, qu'un entraîneur comme ça puisse se dérisser
à l'OM,
ouais. À l'OM et soit prêt à faire des efforts, parce que pour lui, c'est un effort, puisque je Bien pense sûr. Qu'il aurait pu jouer la Coupe d'Europe
avec
ailleurs.
Un autre club, ouais.
Voilà, peut-être pas un grand club, ou je sais pas ce qu'il avait comme possibilité, mais en tout cas il était sollicité, il a fait un choix fort. J'ai même pas cru pendant un moment quand on disait il a été impressionné en venant ici, il a envie des trucs. Je me suis dit bon, ça c'est encore des histoires là. Et puis bon, finalement on le fait. Donc ça c'est déjà la bonne surprise de voir que mon club est toujours aussi attractif pour un coach. Après il y a ce qu'a dit Jérôme, en effet, pour pouvoir bosser comme il faut, parce que il a des idées arrêtées, il a besoin de joueurs qui ont le profil pour jouer dans son équipe. J'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un gros renouvellement de joueurs, et j'espère qu'il est associé à ce renouvellement. Je l'espère, je le souhaite, je l'implore, qu'on nous fasse pas gore le coup d'un entraîneur qui arrive et à qui on file des joueurs qu'il a pas choisi. Ce serait
il est tellement
fois...
Eric, si je peux me permettre.
Oui, non, mais je pense.
Rappelez-vous avec Giovanni Rossi, qui est donc coordinateur, qui va être conseiller de l'entraîneur et qui était le directeur sportif de Sassuolo. Et s'il vient, c'est qu'il a besoin d'avoir avec lui quelqu'un qui connaît aussi le mercato et qui va travailler main dans la main. C'est vraiment le but avec Eddie Benassia et Pablo Longoria.
Voilà. Donc ça c'est déjà aussi un autre point positif s'il choisit ses joueurs. Et après, eh bien, à lui de faire ses preuves et notamment sur l'identité de jeu qu'il veut mettre en place. Il y a des entraîneurs qui sont capables, sans avoir les meilleurs joueurs du monde, d'avoir assez rapidement une identité de jeu. Il y a plein d'exemples. On va pas citer les plus grands, parce que y en a pour qui ça a été très impressionnant, voire très significatif. Mais c'est les plus grandes, donc on va pas parler d'eux. Mais j'espère qu'il va pouvoir mettre en place ce qu'il sait faire. Et avec un match par semaine, moi, on parlait de plaisir. Oui. On parlait de plaisir tout à l'heure dans l'équipe de France. Oui. Moi, ça fait longtemps que sur les championnats de nations et tout, j'ai du
plaisir,
mal. Mais par contre, cette année, je me suis ennuyé. Je m'étais pas ennuyé l'année d'avant avec Tudor. Je me suis ennuyé l'an dernier. Mais j'espère reprendre plaisir à regarder les matchs de l'OM.
Le retour de l'ambition à Marseille. Duga va donner son avis dans une seconde. On aura aussi celui de Jonathan au 32-16. Rotten sans flamme revient très vite. Restez avec.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne,
RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h19 sur RMC, on est là, on est bien, on continue nos débats dans Roten sans flamme et on parle de l'OM, de recrutement de l'Olympique de Marseille, de Zerbi avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry qu'on va entendre dans un instant réagir. Jean-Louis Tour est là, un auditeur qu'on va prendre et puis on continue, on est jusqu'à 20h.
Hein. Les JO, hein, la liste de Thierry Henry qui va être officielle dans quelques heures maintenant, nouveau coup dur. Est-ce que vous croyez tout de même à la médaille 32-16 pour monter sur le ring des supporters? Dugas, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Jérôme, d'Eric sur l'OM de Dezerbi?
Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai dit beaucoup de mal la saison dernière du président, même jusqu'à dire qu'il devait partir. J'ai trouvé, parce que son recrutement avait été totalement raté, je trouvais que j'en avais marre de ses explications, j'en avais marre de sa communication, j'en avais marre de son enfumage. Donc j'ai dit beaucoup de mal de lui la saison dernière. Donc quand il fait les choses bien, j'ai envie de le dire aussi. Donc je suis du même acabit que Eric, c'est-à-dire que je trouve que c'est une chance et un petit miracle pour l'OM, et surtout la qualité du travail du président, d'avoir réussi à attirer un entraîneur comme Dezerbi. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Je le connais pas plus que ça, bien évidemment, je l'ai vu entraîner ses équipes, j'ai vu ses équipes jouer, c'est plutôt spectaculaire, c'est plutôt agréable. Il a une bonne presse, il a une bonne image. Bon, voilà, je pense que c'est une chance pour l'Olympique de Marseille. Donc je pense que ça donne beaucoup d'espoir et surtout beaucoup de curiosité. Et c'est aussi ce qu'on a envie de voir et de savoir. Un club comme l'OM, c'est ça. On a envie d'être surpris. On a envie de kiffer. On a envie de vibrer un petit peu. Et là, pour le coup, on est plein d'attentes. Mais moi, au-delà de l'arrivée de Dezerbi, que j'espère et que je pense être une excellente chose, après, on aura tout le loisir et le temps de le dire la saison prochaine, de juger tout ça. Moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que le nouvel actionnaire a remis la main à la poche. C'est ça la bonne surprise. C'est ça le véritable, ouais. la véritable.
Tu crois, c'est sûr ça, Dugas?
Excuse-moi, mais déjà.
Il est toujours là.
On peut poser la question à Flo. Mais quand je vois l'incertitude qu'il y a autour des droits télé, ce qui n'empêche absolument pas l'Olympique de Marseille de se projeter, ouais. À mon avis, c'est qu'il y a des garanties. C'est qu'il y a des garanties au niveau de ce qui se passe là-haut, au niveau de la direction. Quand tu vois que Dezerbi arrive avec 7 adjoint, ça aussi c'est un sacré budget. Enfin, à mon avis, il y a des garanties de la direction et de l'actionnaire pour dire bon les gars, on va être actifs et il va se passer des choses. Donc pour moi, c'est plutôt ça la bonne nouvelle. Pour rappelez-vous, la saison dernière, on s'est posé beaucoup de questions à savoir est-ce que le président qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut vendre, est-ce qu'il est prêt à mettre de l'oseille, est-ce qu'il est timide, est-ce qu'il en a marre. Moi, je trouve que c'est une réponse claire et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, ouais. Pour l'OM, quoi.
On va voir ce qu'on pense.
De toute façon, devant la DNCG, Franck McCourt a encore une fois apporté ces garanties-là, parce que comme tu l'as dit, Dugas, on est dans un contexte où certains clubs sont un peu à l'arrêt, notamment dû à l'incertitude des droits de télé. Et c'est vrai que lui, il a apporté cette garantie que il était solide et qu'il allait être là en cas de coup dur financier. Alors évidemment, il y a quand même, on l'a compris, un besoin de vendre. Donc c'est pour ça que Marseille s'active pour alléger la masse salariale, repartir sur des profils où on aura moins de gros salaires. Parce que Marseille a peut-être eu un train de vie Ligue des Champions, ouais. Et ça fait deux saisons qu'il ne la joue pas. Mais Franck McCourt, effectivement, financièrement est présent et surtout a acté vraiment l'idée qu'on repartait sur un nouveau projet de 3 ans. Et donc, on fait un reset total quelque part. Parce que là, on parle des joueurs, mais tu parlais du staff, 7 personnes, le staff médical aussi, tout va changer. Il y a un nouveau coordinateur sportif qui arrive. Bref, on repart de zéro, ou presque, avec. Une direction certes qui est la même, Pablo Longoria et Mehdi Benassia, mais qui affirme qu'ils ont aussi appris de leurs erreurs et qui vont du coup repartir avec de nouvelles idées autour de Zerbi.
Oui, on se rapproche. Donc Jonathan qui nous rejoint au 32-16.
Salut Jonathan.
Salut l'équipe.
Bienvenue Jonathan. Bon, merci. Alors tu nous as entendu là, qu'est-ce que tu en penses toi?
Alors juste avant, j'avais juste un petit message à passer à Eric pour le remercier de l'épopée en 93 et tout. Moi j'étais pas encore né, mais voilà, d'avoir pu rendre heureux mon père, mon grand-père, voilà, je serai
éternel. Ton arrière-grand-père aussi.
Eh bien, embrasse-les, embrasse la famille.
Il y en a un, ça sera compliqué, mais l'autre,
à Metz, oui.
Ouais. Ah, pas de souci. Et oui, donc pour répondre à la question, oui, je serai. Comment ne pas être enthousiaste? J'ai deux raisons. La première, c'est qu'on va réussir à chercher un entraîneur qui était même pas sur le marché et qui avait une cote quand même assez forte. Donc après la saison qu'on fait, comment ne pas être enthousiaste quand tu réussis à tirer un entraîneur de cette envergure-là? Et la deuxième, c'est que ben moi, ça me rappelle un peu l'année où Bielsa arrive, où on fait une saison un peu bidon, hein.
Ouais.
Et l'intersaison, Bielsa arrive, tu gardes un peu les joueurs que tu croyais qui étaient finis, et il arrive à les faire progresser et presque à les faire rendre des top players.
C'est vrai, tu as raison de parler de ça, parce que lui, on peut dire par exemple, avec tous les défauts qu'il avait, hein, Bielsa, sauf ouais. qu'il a pris un effectif qu'il avait. Moi, je me souviens de JJJ, du petit milieu de terrain là, le gaucher là,
Imbula.
Donc à qui on disait, mais qui avait déçu, et ces mecs là ils ont tous surperformé avec Bielsa derrière, à part le petit Mendy qui était allé à Monaco derrière et qui avait continué. Je crois que les autres, ils ont tous disparu presque, tu vois. Donc voilà, tu as raison.
Imbula, il continue avec le FC Porto et il est fini au pipeau. Il finit à Sunderland, là, je ne sais même pas s'il est encore en activité. Mais oui, oui. Ouais.
Il y a déjà, des flics derrière, fais gaffe quand même à Boulay.
un entraîneur qui arrive, il n'est pas interdit à faire progresser des joueurs, qui plus est des joueurs que quand on les a pris. En début de saison dernière, on était loin de s'imaginer que le fiasco qui allait se passer. Et on était tous.
Mais Jonathan, c'est pas forcément la politique de Zerbi, parce que là, Flo nous le disait, il y en a beaucoup déjà qui sont partis et ça va continuer.
Oui, mais tu as gardé un petit noyau quand même.
Le noyau,
c'est pas ouf. Déjà, tu as Rongier qui revient. Et puis, tu as des mecs comme Aubameyang, peut-être qu'il va rester. Mais Aubameyang.
Non, mais derrière, ils veulent garder Balerdi, Meïté, qui vont rester. Ouais,
c'est quand même une bonne base. Mais Meïté, qui a été l'une des bonnes surprises de la saison, quand même, avec le peu qu'il a joué.
Ouais, mais Jonathan, tu as raison. Et Flo, c'est bien qu'il le rappelle aussi. Mais c'est des joueurs qui ont performé l'année dernière. Là, toi, tu parlais des joueurs qui ont sous-performé, du moins qui n'ont pas été au niveau, et qui sont susceptibles, avec un entraîneur comme De Zerbi, de revenir à un niveau, d'être même surprenant. Et je te dis que par rapport à Bielsa de l'époque, où tu as totalement raison, cette année, ça sera moins le cas. Parce qu'il y en aura moins. Oui, ces joueurs-là qui ont déçu, normalement, ils vont partir.
Oui, non. Non, mais justement, on parlait tout à l'heure de joueurs qui vont venir et qui correspondent à son profil. Alors, c'est pas un gage de réussite obligatoirement, hein,
mais
c'est vrai qu'il a cette chance-là.
Et puis, les joueurs qui sont partis, ils ne peuvent pas tous partir, hein, parce que sinon, tu te retrouves avec Pim Pam Poum. Parce que tu peux plus compter les satisfactions que les déceptions. Ceux qui ont performé, ils ne sont pas interdits de performer une deuxième saison. Et ceux qui ont sous-performé, je pense que De Zerbi peut les faire progresser.
Ouais,
je pense
exactement.
Aussi que les joueurs qu'il va faire arriver, les inconnus, il peut les faire devenir connus. Parce que à Brighton, avant que De Zerbi arrive, cite-moi 2-3 joueurs de Brighton. Mmh. Et pourtant, ça a été l'équipe favori du groupe où il y avait l'Ajax, l'OM et l'AEK Athènes.
Jonathan, tu as raison, mais où il faut faire attention, et c'est pour ça que moi je mets le pied sur le frein sur la qualité de l'entraîneur. Je te dis pas que c'est un tocard. Il a montré, quand tu as entraîné des clubs de seconde zone et que tu as réussi à les mettre dans la première partie de leur championnat, dans le classement, c'est qu'en effet il a montré des qualités. Mais attention, l'objectif de l'OM n'est pas l'objectif qu'il avait au début de saison avec Brighton ou avec Sassuolo, tu vois.
Le championnat anglais n'est pas quand même le même que le championnat français.
Oui, sauf que tous les ans on le vérifie dans le championnat français, c'est pas parce que le championnat est moins fort et que les équipes sont moins fortes, les locomotives, que l'OM finit dans la première partie du moins dans les trois premiers. Et l'objectif de l'année prochaine, ça sera de retrouver une place en Ligue des Champions du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, il va falloir que ça aille vite, que la greffe, elle prenne assez vite, parce que t'as pas le temps à l'OM. Il faudra être à la fois indulgent quand même, mais être vigilant sur l'apport des recrues pour permettre à l'OM de finir tout là-haut. Donc, il y a quand même quelques incertitudes. Mais ce qui est bien, on l'entend dans ta voix et dans celle d'Eric aussi ou du gars, vous êtes plus amoureux de l'Olympique de Marseille que moi, c'est qu'on sent quand même de l'enthousiasme, on sent de l'émotion, même Flo, tu vois, on sent qu'il y a une excitation.
C'est
ça qui est bien.
Voilà, c'est pas un gage, c'est un peu comme l'histoire de la vie, des couples. Hein. Ouais. Tu peux avoir un coup de cœur et puis c'est pas obligé que ça marche derrière. Ouais, ouais. Mais il n'empêche que ce coup de cœur, il est important quand même, tu vois.
Voilà. Et dans la curiosité qu'évoquait Eric. Non, mais dans la curiosité, je fais très court.
Tu verras Jean-Louis.
Jean-Louis, c'est jamais un passé. Enthousiasme.
Laissez Flo faire son métier de journaliste.
Non, c'est, et d'ailleurs, je suis curieux qu'Eric n'en ait pas parlé, mais je suis sûr qu'il le pense. On va voir aussi de quelle manière Roberto De Zerbi va intégrer quelques jeunes. Parce que, pour le coup, il y a eu une belle aventure en fin de saison dernière avec la Gambardella. Demain, il y a une reprise, et je crois même qu'ils ont repris avant, dès aujourd'hui, les jeunes.
Les jeunes,
Bacola, Enzo Sternal, etc. Daou, qui avait fait Lafont aussi, qui avait fait quelques apparitions avec dans le groupe pro. Donc, évidemment, tout ça dans le contexte OM où c'est compliqué parfois de s'intégrer et on sait qu'il y a souvent un vrai gap pour intégrer l'équipe pro, mais est-ce que De Zerbi avec quelques joueurs
il a cette réputation
oui quand même. De trouver des joueurs qui collent à son profil s'ils ont 18-19 ans, il va pas trop se poser la question. Donc c'est cette curiosité qu'on peut avoir aussi.
Moi, je pense que ça serait ça, la vraie révolution à l'OM, ça serait ça. Quand j'entends Flo expliquer que les dirigeants ont compris de leurs erreurs, j'espère que ça, c'est l'erreur la plus importante. Je pense que la bonne santé d'un club, c'est ça, c'est de sortir des jeunes. Et tu reconnais la bonne santé d'un club quand elle arrive à sortir des jeunes. Parce que c'est une énergie incroyable pour un club.
C'est surtout du gars, une année où tu fais pas la Ligue des Champions et où tu as un effectif un peu plus réduit et où tu peux faire un peu plus de frais sur certains joueurs. Et ton banc, la moitié de ton banc, ça doit être des jeunes.
Voilà, on remet les minots, tout ça. Merci Jonathan.
Si on t'ennuie, tu nous le dis.
Ça fait 5 minutes que je vais lancer la pub et je vous écoute.
Si on t'ennuie, tu nous le dis.
Merci Jonathan.
Après, je me rendais compte, moi. Allez, merci Flo.
Merci Fraté.
Ciao,
à bientôt.
Je crois que t'étais boss.
Face aux annonceurs qui mettent de l'argent, il n'y a plus de boss, t'inquiète pas. Dans une seconde, Thierry Henry.
Plus de 24 heures, il est plus boss.
Qui ?
Toi ?
Oh non, pourquoi ?
Non, ça va. Bon, non, encore plus.
Non, ça va, tout va bien.
Ouais.
Dans une seconde, ça devient un autre patron.
Attention.
Moi, je suis crédible. La liste des bleus pour les JO, nouveau coup dur pour Thierry Henry. Est-ce qu'on peut vraiment croire à la médaille ?
Ok, patron.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h35 sur RMC, on est là, on est bien, on finit l'émission. Il reste encore une vingtaine de minutes dans Roten sans flamme avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. On a encore des bons thèmes, on va parler des JO de Thierry Henry.
Attends, il y a le coq là-haut.
Il y a le poulet.
Le poulet. En tout cas, c'est le moment, ça c'est sûr. Si vous voulez aller assister.
Regardez l'équipe de France en ce moment.
Oui. Il y a des petits problèmes aussi, lui. Alors, on n'a pas des places là pour le quart de finale. On vous les a déjà offertes. Les places pour le quart de finale contre le Portugal.
Pour la demi.
Là, c'est pour la demi. Alors, tout est ouvert. C'est la demi, en tout cas, où il peut y avoir l'équipe de France, si on se qualifie. Mais sinon, s'il n'y a pas l'équipe de France,
vous aurez France-Espagne.
Voilà, ça peut être aussi un Portugal-Allemagne.
Un Portugal-Allemagne.
Ça peut être la folie, en tout cas. Ça peut être une affiche exceptionnelle. C'est une demi-finale incroyable. De l'Euro. C'est le moment d'envoyer Euro par SMS au 732-16. On vous envoie le vol, l'hôtel Munich. La rencontre avec les équipes RMC et vos deux places donc pour cette demi-finale Euro au 732-16.
Oh, c'est incroyable.
C'est le moment. Avant de parler d'arbitrage à 19h45, j'ai une nouvelle pour toi Jérôme qui va te plaire.
Ah oui.
Mais d'abord.
C'est celle-là ?
Oui, ce sera tout à l'heure. Oui, ça c'est à 19h45. Mais là d'abord on est sur les JO.
RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Alors, Thierry Henry a jusqu'à ce soir minuit pour donner sa liste définitive en vue des JO. Il était en conférence de presse il y a quelques minutes et il a commencé la conférence en disant « Je peux pas vous donner la liste définitive parce que voilà, il peut y avoir des coups durs jusqu'à n'importe quel moment. Je peux déjà vous dire qu'on a un joueur qui vient de partir. » Parce que son nouveau club, en l'occurrence on parle de Khéphren Thuram, son nouveau club c'est probablement la Juve, comme on vous a dit hier, a bloqué la participation du joueur au JO, donc Khéphren Thuram a quitté le groupe de Thierry Henry. Il pourrait se passer la même chose avec Michael Olise, qui pourrait quitter...
Mais que fait Macron
Macron, oui.
On l'entend plus en ce moment.
Oh, il a d'autres soucis.
C'est vrai qu'il s'en empare plus du foot là.
Bah non,
Donc Olise qui quitte Crystal Palace pour le Bayern pourrait lui aussi quitter le groupe. Donc Henry attend d'avoir le maximum d'infos pour donner cette liste de 18 joueurs plus 4 réservistes. Voilà. Donc galère de plus avec le départ de Kefren Thuram, hein, il l'a reconnu Thierry Henry, mais il dit aussi c'est le jeu, c'est comme ça, il faut faire avec. Est-ce que vous croyez à un podium, à une médaille, à quelque chose? Kevin est là pour donner son avis sur le ring des supporters.
Salut Kevin.
Bonjour à tous.
Bienvenue Kevin. Bon alors, c'est quoi ton ressenti?
En plus, Dédé a été sympa parce qu'il a les Zaïre Emery et tout qui jouent.
Attends, peut-être qu'à la fin de l'Euro, il va lui donner quand même.
Zaïre Emery, j'ai fait les 4 matchs des Bleus, je ne l'ai pas vu s'échauffer une fois.
Non, mais je crois qu'il est là pour les bouteilles.
Voilà. Et je crois qu'il n'a même pas joué contre la réserve de Paderborn la première fois, hein, le match des coiffeurs.
Non, il lui a dit réserve. Ouais, c'est Nasser.
Ou remplaçant sur ce match-là, en tout cas.
Ah non.
Ah oui, ils sont 25, donc t'as forcément des remplaçants, même sur ces matchs-là. Kevin, bon, comment Kevin, tu vois le foot pour Thierry Henry?
Bah écoutez, Thierry Henry, déjà, il a débarqué cette année en plein milieu d'une. Enfin, une période qui n'est pas aisée, on va dire. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est à 3 semaines de l'échéance, on va dire. Donc là, ils vont partir en prépa. Et le mec, il sait. Enfin, c'est pas qu'il sait pas avec qui il va partir, mais. Mais c'est quand même compliqué cette situation. Je me dis, mais qui a protégé, a fait que, comment dire, qu'on puisse dire aux joueurs, ben voilà, de telle période à telle période, c'est impossible, qu'importe le club. En gros, ils viendront. Mais ils seront avec nous. Et le problème, c'est que, ben voilà, quand on est à 3 semaines des JO, là, d'une échéance qui va démarrer, en plus, c'est chez nous. Et là, j'ai l'impression que Thierry Henry, il est seul, il est là, et j'ai l'impression qu'on peut se prendre un vent dans la tronche comme on pourrait pas comprendre, quoi. Alors, après, j'espère que Thierry Henry, comme il est intelligent et que malgré tout, je pense que sa voix, elle porte quand même dans le vestiaire, ça pourrait le faire. Mais là, sincèrement, la Fédé, ils ont, on va pas leur demander de faire leur boulot, mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est quand même abusé que Thierry Henry se pose encore des questions sur sa liste, quoi.
Bon, il est seul au monde, ça on le sait depuis sa nomination. Je pense que même lui est pas surpris, hein. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. On a beaucoup échangé avec Titi et le problème, c'est que il savait dans quel bourbier il se mettait. De toute façon, que cette liste allait être compliquée à faire et la liste définitive. La seule chose, c'est que je pense qu'il s'était Il avait programmé, si tu veux, le fait que les stars qui voulaient faire les JO ne les feraient pas,
oui,
par rapport à leur statut, par rapport à leur club et tout ça. Mais de là à commencer une préparation avec un groupe et qu'on lui retire des joueurs encore, alors même
mais
si
là, l'équipe va être pire que celle de Sylvain Ripoll, non, hein,
c'est pour ça.
À ce rythme-là.
Donc, je pense que là, il n'était pas préparé à ça, mais aujourd'hui, il est tellement seul. Tu me parles de la Fédé, mais la Fédé, est-ce que vous avez entendu des déclarations du président de la Fédération Française de Football aller dans le sens de Thierry Henry,
Didier
des JO
et
de Didier Deschamps, encore pire, encore pire.
Didier, bon, Kevin.
Non, mais Didier Deschamps, c'est encore pire. C'est que il a rien dit en public comme ça, mais en privé, il fait tout pour que les joueurs ne fassent pas les JO. Même ceux qui vont pas jouer un match à l'Euro. Donc il est là le problème, c'est que t'as un mec qui est sélectionneur, qui est là, qui va être jugé juste sur les résultats, à savoir si on a une médaille, il va ressortir grandi. Si on n'a pas de médaille, ça va être un tocard. Voilà, ça va être ça. Mais après,
Kevin, Philippe Diallo a donné une interview à RMC Sport hier. Hein. Il a été interrogé sur les JO et il dit voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a sensibilisé tout le monde. Je veux remercier ceux qui ont dit oui. Beaucoup de clubs français ont répondu à l'appel de Thierry Henry. Voilà, les clubs étrangers ont pas joué le jeu. Certains ont leurs contraintes comme Lille. Donc il dit en gros, moi je prends en compte chaque situation et je ne jette la pierre à personne.
Très bien.
C'est peut-être ça d'ailleurs le problème. Et puis sur Zaïre Emery, il dit c'est la faute du PSG. C'est le PSG qui veut pas qu'il enchaîne deux compétitions. Mais en soi, il aurait pu. Donc voilà, je veux pas me substituer au PSG, dit-il.
De toute façon, quoi qu'il se passe, il a dû confirmer Thierry Henry au poste de sélectionneur, comme il l'a fait pour Didier Deschamps. Non?
Ça, j'ai pas vu.
Ah non, ça non. Non, il y a que Didier qui décide s'il s'en va ou s'il reste. Ah, ça, c'est bon quand même.
Eric, on va dans le mur là avec cette histoire?
Bah, le gros problème de toute cette histoire, c'est que les JO sont en France et que malgré tout, même si le foot n'est pas un sport olympique, c'est un sport tellement populaire qu'on va avoir le regard dessus obligatoirement par rapport aux sélectionneurs aussi. Et j'avoue que il aurait fallu anticiper, mais on l'a dit 50 fois, donc on va pas se répéter, mais il aurait fallu anticiper pour présenter une équipe compétitive, quoi. Voilà. Mmh. Et là, on va passer pour des jambons, je pense. J'en ai peur. Hein.
Mais surtout qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a. Excuse-moi. Hein, mais surtout qu'il y a 3 ans au Japon, moi, je me rappelle, j'avais participé sur RMC, enfin, à l'after, tout ça, sur le JO. Et moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y avait, vous savez, la Hubert Fournier et toute la clique, là, qui avait dit plus jamais ça, machin, c'est honteux et tout. Sauf qu'il y a 4 ans, ce qui était bien, il y a 3 ans, ce qui était bien, c'est que c'était Ripoll qui était en poste, donc c'est-à-dire incompétent total, et que c'était, vous savez, Gignac et Tétis Savanier et compagnie qui avaient été. Oui, et donc en gros, ouais, mais ça veut dire qu'en gros, on avait monté une équipe en mode saucisse barbecue, quoi. Je veux dire, c'était les copains qui allaient en vacances, et là, on n'attendait rien. Le problème, c'est que là, cette année, c'est les JO en France.
Bah oui, c'est ça.
On a vendu Mbappé, on a vendu Griezmann, à un moment Giroud même, enfin. On a entendu tout et n'importe quoi, ce qui fait qu'on a fait monter la sauce.
Il y aura la casette, qui sera capitaine d'ailleurs, a dit Thierry Henry. Kevin, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt.
Ouais, en tout cas, merci beaucoup, c'était cool.
Merci Kevin, salut.
Tu reviens quand tu veux. Et dans une seconde, le reste des infos du jour, et notamment cette petite révolution dans le monde de l'arbitrage.
Oh là là là.
À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h46 sur RMC. Les 10 dernières minutes de Rotten sans flamme du soir. Christophe Dugarry et Eric Dimeco sont encore là, bien sûr. Jean-Louis Tour aussi.
Oui.
On va parler de l'arbitrage.
Alors on arrive. J'ai quelques infos d'abord sur l'Euro quand même à vous donner. Je voulais quand même vous citer Ralf Rangnick, le sélectionneur de l'Autriche,
éliminé
hier, mais qui a dit quand même, bon, on a eu beaucoup d'opportunités de marquer sur le match contre la Turquie. C'est difficile s'il y a Gordon Banks dans les buts. Et puis il ajoute, j'ai vu d'autres matchs dans cet Euro où il était difficile de rester éveillé. Et en tout cas, c'était pas le cas de nos matchs. Bon, il a cité personne, hein, mais on a un peu vu quand même qui faisait allusion.
Oui, il y a pas que nous, hein, qui sommes des somnifères. Hein.
Non, mais le match.
Ouais, mais nous quand même, ça marque.
Le match d'hier, Autriche-Turquie, c'était pas mal.
C'était bien. Oui. Mais moi, je me suis plus régalé sur les petites nations qui avaient du
Roumanie,
gaz.
Pays-Bas,
et
c'était pas mal aussi.
Très bon. Ouais.
Dès qu'il n'y a pas la France, c'est bien.
Non,
et l'Angleterre,
c'est pas mal aussi.
Écoute, quand même, le Portugal, on s'est emmerdé. La France, on s'est emmerdé. L'Angleterre, on s'est emmerdé.
Et
l'Allemagne n'est pas extraordinaire.
Il n'y a que l'Espagne.
Non, mais là, Allemagne-Espagne, quand même, vendredi, ça va être.
Et alors, nos
normalement.
Amis. Ayons une pensée pour nos amis italiens, quand même. Parce que.
Mais bien sûr.
Imagine ce pays de foot, ce qu'ils ont vécu, là.
En tout cas, eux, le pire, c'est qu'ils sont horribles, mais en plus, ils ont une génération dégueulasse.
C'est ça.
Aucun avenir, les pauvres.
Pour l'instant, c'est. Au moins, ils sont moins frustrés que nous. Parce que nous, on se dit, on a un potentiel et tout.
Ouais, mais quand tu es l'Italie, que tu es champion de titre, tu es plein d'espoir quand même.
Exactement.
Dis-moi, ils sont tombés de haut, là.
Ils ont fait pour être champion d'Europe, ceux-là, avec cette équipe.
Alors, par ailleurs, donc, je vous le disais, vendredi 18h sera le feu, Allemagne-Espagne. Et ça s'envoie des petites piques en conférence de presse. Rossellou a dit on aimerait bien mettre Toni Kroos à la retraite. Ils reprennent l'expression de 2006 pour Zidane.
Bon, ça leur avait réussi.
Ils n'ont pas réussi à mettre Zidane à la retraite, mais voilà. Et Toni Kroos, qui est en conférence de presse, l'a pas mal pris. Il a dit il dit ça parce qu'il veut gagner. Je comprends son idée, mais moi, je vais faire en sorte que l'Allemagne passe. Donc voilà, ça s'envoie des petites piques gentilles.
Ouais, c'est gentil, là.
L'arbitrage, donc. Communiqué.
Ça va aller mieux, Jérôme, tu vas voir.
Publié sur le site de la Fédé pour, donc c'est Philippe Diallo, qui annonce 2 arrivées dans l'organigramme de l'arbitrage français. Anthony Gauthier reste le patron. Anthony Gauthier reste le patron.
Duhamel?
Arrive déjà Amaury Delru comme manager instructeur des arbitres de Ligue 1.
Voilà. Déjà, le 2 termes comme ça, j'aime pas.
Moi, je comprends que c'est le poste qu'avait Stéphane Lannoy. Qui était débarqué en
première année. Vu que ça a bien marché une première fois, autant le refaire une deuxième fois.
Il a l'air d'être en dessous d'Anthony Gauthier, quoi. Voilà.
Ah, c'était un problème de hiérarchie.
J'ai l'impression, mais bon.
Ouais, donc le problème est donc au-dessus. Donc le problème est encore là. Bon, okay.
En tout cas, il a été auditionné par tout le monde. Hein,
par Borghini aussi.
Oui, par Borghini, exactement.
Ah ouais,
il a été auditionné par Eric Borghini. Pascal Parent, donc en charge du comité exécutif de la Fédé, Anthony Gauthier, Jean-Pierre Caillot, président de Reims et du Collège de Ligue 1, et Marc Keller, président de Strasbourg. Donc, tu vois, là, voilà, il a passé toutes les étapes.
Donc il va coordonner l'arbitrage professionnel.
Mais ils ont...
Et puis donc arrive Monsieur Borghini, il s'en souvient peut-être de la discussion, non ? Ah, peut-être pas encore là.
Je sais pas. Bon, en tout cas, c'était pas de lui dont on voulait te parler, Jérôme. Voilà. Mais Mickaël Landreau, qui arrive.
Qu'est-ce qu'il vient foutre
comme Il arrive comme conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1.
C'est le poste qui manquait.
Ah non, mais tu réclames tout le temps que les anciens joueurs, etc.
Bah oui, c'est très bien, c'est super, moi je trouve.
Ah non, mais je ne savais pas le titre, c'est pour ça. Bah voilà. Alors c'est quoi
le titre ? Je vais te le dire quand même. Conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1.
Tactique et technique.
Arrête, toi.
Dis-moi, tu es jamais content, toi, du coup. De mes joueurs, tu es pas content.
Non, mais il pourra aider l'arbitre à dire voilà. Là, sur ce contact-là, bah, il y a simulation, parce que je connais ça, moi, sur le terrain.
Voilà.
Bon, après, c'est un gardien, c'est peut-être compliqué.
Non, mais conseiller tactique et technique. Ouais. Non, mais moi, j'attends de voir, le poste vraiment qu'il va occuper. Et comment il va servir aux arbitres. Parce que si
il y aura aussi un rôle de porte-parole amené à intervenir publiquement quand cela le nécessitera.
Moi, je pense que le rôle de Mika ou un autre, mais là, ils ont choisi Mika Landreau. Donc, s'il a envie de s'investir là-dedans, tant mieux. Ça peut que améliorer d'avoir un ancien joueur, ça c'est une certitude, mais pas un poste juste de faire des conférences, si tu veux, le lundi ou des débriefs. Il faut qu'il soit sur le terrain, il faut qu'il soit dans le camion VAR ou au Video Center pour donner aussi son avis à chaud de l'homme du terrain, comment il ressent, ce qu'il ressent sur le défenseur, l'attaquant il en a rajouté, est-ce que ceci, la sensation du jeu, tu vois, et ça on a en effet.
Après, je pense qu'il va s'investir, Jérôme, il est quand même du genre, s'il a ce poste-là, c'est la première fois,
c'est
un poste qui a été inventé pour lui et il y en a véritablement besoin. Tout le monde du football réclamait ça, tous les joueurs réclamaient ça. Donc je pense qu'il va tout faire. C'est un garçon intelligent,
organisé.
C'est pas un idiot, donc moi je lui fais confiance. Après, c'est sûr que j'espère qu'ils vont pas se servir de lui non plus pour apporter.
Voilà, que c'est pas une caution, voilà. Caution
des joueurs. Mais voilà, il faut que vraiment il ait un réel pouvoir et que ses décisions et son ressenti de footballeur soient écoutés. Ouais, parce que c'est ça qui est important.
Exactement.
Si c'est pour le mettre et pas l'écouter, ça sert à quoi ? À rien.
Non, mais là, je suis entièrement d'accord. Moi, à la fois, je suis content pour lui parce qu'il avait envie de reprendre un poste dans le foot. Alors, en tant qu'entraîneur, il a peut-être pas eu l'opportunité. Là, si c'est l'occasion d'apporter son expérience, parce qu'il en a quand même beaucoup. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs en Ligue 1, toutes générations confondues. Écoute, je comme tu le dis, Duga ou Eric, si vraiment il est écouté et qu'il arrive à mettre en place ses idées pour améliorer la relation entre les joueurs et l'arbitre, eh ben tant mieux. Maintenant, moi je reste sceptique parce que quand tu me donnes les personnes qui dirigent encore l'arbitrage, pas l'impression que ça a beaucoup changé, quoi, tu vois.
Par ailleurs, dans les infos du jour, l'OL a officialisé donc la signature de Pierre Sage jusqu'en 2026. Voilà, contrat du coup de 2 ans.
2 ans.
Avec une option, je crois, une en option supplémentaire, mais voilà. Avec un nouveau staff pour Pierre Sage.
Ah bon ?
Bah oui, certains sont partis, Jérémy Bréchet notamment, et donc Georges Massiel, Ruy Lemos et Denis Valour arrivent avec Pierre Sage.
Ouais, là il y a du lourd.
Ils viennent d'où ces gens ?
C'est des proches de Pierre Sage.
C'est des
mais d'accord, mais si c'est son cousin, son beau-frère et machin, ils viennent d'où ? Jean-Louis, t'as des infos ou pas ? Dis-moi, j'ai pas d'infos et puis voilà, c'est pas grave.
Non. Georges Massiel, il a été manager à Valenciennes. Voilà. Et adjoint à Lille également, le Portugal, etc. Benfica.
Il était à Valenciennes quand l'année dernière ?
Bah oui.
Ouais, ça a bien marché, ouais.
Et il a eu du mal à mettre en place ses idées de jeu. Mais voilà.
Ouais, ça a bien marché. Ils sont descendus, non ?
Oui. Et puis, visite médicale pour Ethan Mbappé à Lille. Donc voilà, ça va se faire, ça va être officialisé pour un contrat de 3 ans pour le frère de Kylian Mbappé.
Ah ouais.
Voilà, on arrête là-dessus, je pense.
Non, et le troisième.
Trop d'infos perturbantes pour Jérôme.
Le troisième adjoint, c'est qui ? Tu peux me redonner le nom ?
Denis Valour.
Ah, et il vient d'où, lui ?
Alors, j'ai pas enquêté sur Denis Valour, mais je peux trouver en quelques secondes des infos sur lui.
Non, parce que si c'est encore un mec qui a fait descendre un club.
Non, je pense pas quand même. Mais tant que Pierre Sage, il a fait du bon boulot, il a bien gagné sa vie de choisir de son staff. Il était préparateur physique à Toulouse en 2006, figure-toi.
Ah bah c'est l'année où ils sont descendus.
Adjoint à Valence aussi.
Ouais, et il a disparu depuis 2006.
Il y a un trou dans sa
carrière.
J'ai
peu d'infos sur lui. Donc je vais pas vous dire de bêtises.
Ah mais il avait envie de reprendre, c'est bien.
Il a 58 ans.
Ah ils ont pas rajeuni le vestiaire.
Non mais voilà. Et c'est des hommes de confiance.
J'allais dire, au moins, il est jeune. Et lui, il te dit, ça paraît.
Bon, non, mais je vais bosser écoute, un peu mieux le staff du Kersage avec des
ils ont fait un mec de 58 ans, ils avaient Jérémy Bréchet qui en a même pas 40.
Oui, mais le courant passait peut-être pas avec Kersage, je sais pas.
Non,
mais
c'est ça. Et Rémi Vercoute est encore là?
Je vais enquêter un peu plus. Ah, d'accord, de façon okay. plus non, le problème que j'ai, c'est qu'Edouard G est en vacances, donc j'ai pas tout le détail sur tout le staff. Voilà, vivement qu'Edouard revienne. RMC Sport sera mieux. Oui, j'en suis sûr.
T'es sûr?
Nicolas Villas arrive.
Qu'est-ce qu'il est mauvais.
Génération After avec Nico Villas.
Ouais, bonnes vacances Edouard.
Et on revient au mois de janvier dans la foulée. Et nous on est de retour demain.
Allez,
Edouard,
on sera de retour demain en grande forme. Et bonnes vacances à tous les journalistes qui sont en vacances. Nous on n'y est pas et on se plaint pas parce que il y a toujours de l'actu tous les jours de la semaine. Et demain Rotten sans flamme revient à partir de 18h comme tous les jours. Et on sera la veille du grand match de l'équipe de France, France-Portugal. On va vibrer vendredi, du moins on espère. Et demain, vous allez vibrer en écoutant l'émission à 18h. Bisous à tous, bonne soirée, à demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme, intégral euro.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.